Podcast in Pellicule, le podcast des timeslips qui réanime les films qui se sont fait démolir. Ils ont subi un échec commercial ou un accueil critique catastrophique et le temps d'un épisode, on revient sur leur cas, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on voit ensemble si on décide de les sauver ou non. Et le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Malignante. Pour présenter ici, c'est Léa, petit tour de table des gens qui vont animer l'émission aujourd'hui. Alors, à côté de moi, sa magnifique moustache lui donne un air malicieux. C'est Giboite.
Coucou, décidément la moustache qui revient à chaque fois que je suis là.
Parce qu'elle est magnifique.
On te définit par ta moustache.
Super bien.
Giboite, on ne te définit que par ta moustache.
C'est vrai.
Avant d'être un homme, c'était avant.
avant une moustache.
Alors,
bientôt le biopic derrière la moustache, l'homme.
Giboite, pour toi, Malignante, en un mot, ça t'évoque quoi?
Excellence.
Ensuite, malgré son style particulier, les pics à sa ceinture et les serpents qu'il a chez soi, on pourrait le croire mal intentionné.
Et c'est pas entièrement faux.
Non, il est vraiment super gentil. C'est Grégoire, en un mot, Malignante, ça t'évoque quoi?
Minority Report.
Ok,
ça fait deux mots.
Oh ta gueule.
Non, c'est en un mot, c'est Minority Report, en un mot.
Minority Report.
Donc celui qu'on ne présente plus, le roi du jeu de mots, mais je n'en ferai pas sur son prénom. Et lorsqu'il est sur scène, on ne peut pas dire qu'il est malitorne, c'est Cortès.
Qu'il est quoi?
Qu'il est quoi?
Malitorne, ça veut dire grossier, maladroit.
Waouh, oh. C'est capillotracté.
Je croyais que c'était pas une licorne.
Est-ce que t'as ouvert le dictionnaire et pris tous les mots qui commencent par Mali?
Ne pose non. pas les vraies questions.
le niveau linguistique du podcast qui s'est franchement amélioré.
Franchement, putain, mais c'est le masque et la plume là. Ça y est, on a monté.
Cortès, en un mot, Malignante.
Cheveux.
Moi aussi, j'avoue. Oui. En face de moi, il a aussi une moustache magnifique et vous le croiserez le plus probablement en vélo. Son nom rime avec Malien. C'est Galien.
Salut.
Alors Galien, en un mot.
Chien. Chien. Bah oui, Malinois, Malinois.
Ah, Malinois.
Et aujourd'hui, on a exceptionnellement une spectatrice. Alors elle est vraiment super intelligente, elle fait une thèse, mais... aujourd'hui, elle fait pas trop la maline. C'est Laure.
Bravo.
Salut.
Et on précise pour les auditeurs que ce n'était pas prévu qu'elle soit là, genre vraiment il y a 10 minutes. Donc bravo pour le jeu de mots. Vraiment catastrophe.
Alors, du coup, ça nous permet de préciser qu'elle n'a pas vu le film.
Oui. Elle n'a pas vu le film. Elle va nous écouter en parler et on va peut-être l'entendre réagir.
Et ouais.
Si tu as des questions, tu n'hésites pas
à ne pas les demander.
On va voir si votre résumé est compréhensible.
Et si ça te donne envie de voir le film. Ou
aussi
pas.
Ou pas.
Ou pas.
Ou pas.
Donc, pour toi, c'est quoi en homme?
Ah oui.
Non, pour toi. Du peu que tu sais.
Toboggan.
Oui, oui, je l'ai.
Elle le dit tout le temps, je crois.
Ah,
c'est son
d'accord.
mot qu'elle dit à chaque okay. fois.
Non, je vois pas
c'est
de quoi
une,
vous
un
parlez.
Running gag.
Oui, c'est.
Tu connais l'humour de répétition?
Ta gueule.
Je déteste ça, l'humour de répétition.
Donc, avant de parler un petit peu du film, de vous le résumer, on va le mettre en contexte. Et c'est Cortès qui s'en occupe.
Cortès qui a pris un livre immense pour prendre ses notes.
Ah, il a un grimoire.
Il a pas pris
c'est
un
magnifique.
Livre, il a pris un cahier.
Il a pris un
cahier.
C'est
encore plus mignon.
C'est un 20. C'est quoi? C'était 29.
21, 29, 7.
Merci.
24, 32. Ça, c'est un
24, 32,
je reconnais.
Ça, c'est un
24, 32. Grand carreau.
Ouais, grand. Avec la marge aussi.
Avec la marge.
Et il a même pris un protège-cahier qui va avec.
J'ai fait mes devoirs.
J'ai pas vu ça depuis que j'ai fini le lycée. Et encore au lycée, j'en avais déjà plus.
Alors, mon exposé...
Oh, ta gueule.
Alors, vas-y, Cortès, explique-nous un petit peu le film.
Donc, Malignant est un film d'horreur qui est sorti en 2021, qui est réalisé par James Wan. Alors, qui est James Wan? On va essayer de faire un petit résumé de sa grosse carrière, parce que quand même, ça fait plus de 20 ans. Donc James Wan est un réalisateur globalement de films d'horreur. Il a commencé en 2004 avec le film Saw, donc du coup qui a été un énorme succès.
Pardon, il a pas fait Dead Silence avant Saw?
Non, il l'a fait après.
Visage de choqué.
Je crois qu'il a fait Death Sentence et après il a fait Dead Silence. Ces deux films-là, ils sont quasiment sortis en même temps, donc okay. Je les confonds à chaque fois.
Ok.
Voilà, il a sorti Saw. Ensuite, il a décidé de continuer l'horreur avec Death Sentence et Dead Silence. Ensuite, il a sorti Insidious et plus tard Conjuring. Donc en fait, en gros, en 10 ans, le mec, il a posé... quoi, quatre sagas de films d'horreur qui ont été hyper rentables et qui continuent à sortir encore aujourd'hui, parce que je crois qu'il va y avoir un nouveau Conjuring qui va sortir cette année. Insidious est sorti, il y a un nouveau Insidious qui est sorti l'année dernière. Donc vraiment, le mec, à peine il a commencé, et puis Saw, Enfin, Saw qui est devenu la référence des sagas de films
c'est marrant
torture porn.
Quand je regardais, quand je regardais rapidement sur Netflix, je voyais écrit Jack Swan entre parenthèses le maître de l'horreur. Je donne ah bon pourquoi? Bah maintenant je comprends.
Ouais, tu comprends.
Bah c'est ça, c'est que le gars justement au moment où il arrive et qu'il sort que des gros succès sur succès, c'est vraiment les gens sont en mode ah oui c'est le nouveau Wes Craven le mec il est en train. En plus il a quand même apporté une patte à lui très Wes Craven c'est Scream, c'est okay, les griffes de la nuit, okay, gros réalisateur
de films années 80,
la colline des yeux.
Ah ouais, oui.
Et James Wan, ouais.
Et James Wan, ouais, nouveau genre horrifique, on va dire, vraiment sa patte à lui et tout, et qui a inspiré énormément de films d'horreur qui sont sortis peu après ces gros succès-là, d'ailleurs.
Et très impliqué dans la scène horrifique parce qu'il est producteur de plein de films.
Ça aussi, je voulais en parler justement. Il est scénariste de quasiment tous les films qu'il a sortis. Il a produit plein de. Il a produit tous les films qu'il a réalisés et tous ceux qui sont en rapport avec les films qu'il a réalisés. C'est-à-dire que La Nonne, Annabelle, qui sont du coup des spin-offs de Conjuring. Est-ce qu'il y a eu des spin-offs d'Insidious? Je ne suis pas sûr.
Je crois pas. Mais il y a eu beaucoup de suites.
Il y a un truc que je viens de comprendre là. c'est James Wan.
Oui.
C'est pas James Swan.
Non.
Okay. C'est pas James Toon.
Non,
plus.
C'est pas.
Oh, j'ai fait la vanne tout à l'heure.
Non, bah là, c'est. Elle pensait
pas
que c'était James Signe.
Oui. C'est ça. Depuis tout à l'heure, on parle de lui. Je croyais que c'était ça.
Et on accueille Laure.
J'adore le fait qu'on ait Laure qui n'ait aucune idée de quoi on parle. J'adore.
Ah, c'est super. Parce que là, ouais, elle n'a même pas d'infos sur le réel. Donc, effectivement. Et James Swan, il a aussi produit Megan 1 et Megan 2, là, qui sont sortis. Donc,
les voitures.
J'en étais sûr. Ensuite, il a décidé de prendre un virage assez vénère à partir de 2017 ou 2016 en réalisant le 10e épisode de la saga Fast and Furious. Donc, c'est-à-dire que quand il crée pas des sagas qui sont hyper rentables, il va chez les autres. Et juste après, il décide de réaliser le premier épisode d'Aquaman pour le DCU. Donc là aussi, niveau saga... Bon, c'est moins bien que Marvel, mais ça reste quand même rentable. Et après Aquaman.
Il était pas tout nul, Aquaman.
De quoi?
Il était pas tout nul, Aquaman.
Bah, non, ça a bien marché.
Je l'ai pas vu.
Non, le premier Aquaman a bien marché. Et d'ailleurs, il réalisera le 2 en 2023. Mais avant ça, il va revenir un petit peu à l'horreur, avec Malignant. Donc, on va aller regarder. J'ai pris mon cahier. Donc on va regarder les chiffres. J'ai l'impression d'être Pascal Pro. Genre alors j'ai les chiffres là. La France parle. Non pas.
C'est de l'antisémitisme.
Donc le film au niveau des chiffres a fait 34 millions à l'international pour un budget de 40 millions de dollars. C'est ce qu'on appelle dans le terme technique un gadin.
Attends voilà. combien excuse-moi j'ai pas.
J'ai pas entendu. Mais bah tu réécouteras l'épisode. Donc.
Mérité.
Donc plusieurs explications peut-être pour ce gadin. Avant même la diffusion du film, bah, y a eu la pandémie du Covid-19 qui a fait décaler la sortie du film. Et en plus, il y a eu la sortie en simultané de la sortie cinéma en salle et de la sortie sur la chaîne de VOD HBO Max qui appartient à la Warner. Donc déjà, tu divises un petit peu tout ça, ça fait un sacré bordel. Et aussi une autre explication, alors qui paraît peut-être un peu conne, mais aujourd'hui ça a quand même son importance, c'est que Malignant n'appartient à aucune franchise. C'est quand même un scénario original, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un Marvel, ni à une franchise justement de James Wan. C'est vraiment une création purement originale et que niveau com en France, mais je pense même aux États-Unis, il y a eu zéro. Il y a eu que dalle pour au niveau de la bande-annonce de Malignant.
En même temps, pendant le Covid, tu as pas mal des affiches dans la rue.
Non, mais je parle de la com en général, ouais. De bande-annonce, etc. C'était très peu diffusé, sauf ceux qui sont un peu fans de James Wan, justement, qui ont
alors,
suivi le bonhomme.
J'ai souvenir d'avoir vu un petit peu de com autour, mais j'ai trouvé que ça avait... Enfin, en fait, de ce que j'ai entendu beaucoup de retours spectateurs en même temps. Apparemment, la com a été très mal faite par rapport au film, et il y a eu beaucoup de gens qui ont été super déçus par rapport au film, parce que la com a été un peu décalée, fait que ça représente pas l'histoire.
Ouais, il y a aussi ça, donc il y a une bande-annonce un peu trompeuse. Après, on rappelle que les entreprises qui font les bandes-annonces ne sont pas ceux du tout qui réalisent le film, un truc comme ça. Enfin, j'imagine tellement, tu sais, quand la boîte de prod de bande-annonce, ils ont vu Malignant, ils ont fait « Ok, il va falloir qu'on fasse une bande-annonce de ce truc. »
C'est là-dessus que j'allais partir. Je pense qu'ils ont vu le film, ils ont dit bon, « Ça sert à rien de mettre beaucoup trop d'argent dans la com, de toute façon, il va pas en ramener des masses. »
Bah, on verra.
Et pourtant c'est un James Wan, donc tu vois, il y avait de quoi faire.
Ouais, mais en fait, en plein Covid, les gens ont pas forcément envie de voir de l'horreur.
Moi, c'est faux. Ça dépend qui. Toi, t'aimes pas l'horreur. Moi, j'aime
non,
pas
non,
ça.
Non, mais...
Ça dépend. Mes meilleurs moments de période Covid, c'était le festival de Gérard Armé à distance, où il y avait plein de films d'horreur.
Ça avait cartonné
nul,
un peu.
Je pense que ça dépend des gens, mais il y en a beaucoup de gens qui sont en mode, bah vas-y, on est déprimé en ce moment, on n'a pas envie de faire un truc.
De toute façon, quand tu peux pas sortir au ciné.
Mmh. Ouais, mais c'est ça.
Mais donc, effectivement, comme tu le disais, il y a eu l'échec du coup financier, mais il y a eu l'échec critique. Parce que les amateurs de James Wan et de films d'horreur, quand ils ont vu le film, ils sont sortis déçus. Et ce qui a niqué évidemment le succès du film, donc qui est sorti en septembre 2021.
Ouais, j'ai boîte.
Ouais, sachant que son dernier film d'horreur avant ça, c'est Conjuring 2, ouais. Qui a eu un succès encore une fois phénoménal. Ouais. Genre, tant qu'il était dans le genre horreur, c'était banger sur banger les films. Enfin, budget multiplié par 20,
par 3,
box office par 200 limite.
Par 200, ouais.
Genre Conjuring 1, c'est 20 rentable. Millions pour 329 millions de bénéfices. Genre, c'est lunaire les chiffres.
Le mec est full rentable. Donc, est-ce que James Wan, après un détour dans les films d'action blockbuster hollywoodien, aurait perdu l'inspiration, la flamme en revenant à ses premiers amours horrifiques, ou est-ce que tout simplement le film, il est pas bien en fait, tout simplement. Est-ce qu'il s'est fait bâcher injustement? C'est ce qu'on va voir en vous racontant du coup l'histoire capillotractée de Malignant.
Juste un petit truc à rajouter sur le contexte. Moi, j'ai lu, je sais plus où, que c'était un... Qu'on appelle ça ? Qu'il était volontairement un peu comique.
Alors ça, c'est ce qu'a dit James Wan après.
Ok, d'accord.
Il a vu que les gens rigolaient en
dit,
salle.
Il l'a dit après pour se justifier. Parce qu'en effet, je l'ai trouvé très drôle.
Il l'a dit après, en fait, j'avais vu des extraits de Making of, donc du coup, pendant le tournage, où il était là, où il expliquait qu'il y avait des thèmes assez durs, mais je pense qu'on...
Alors, ils y sont toujours. Hein,
il y a des thèmes assez durs et trucs comme ça, mais après, depuis 3-4 ans, en fait, t'as Letterboxd qui fête l'anniversaire de la sortie du film. Pour un petit peu comme une espèce de rendez-vous entre copains, en mode il y a cette dope qui est sortie et on kiffe, tu vois.
En vrai,
pour un petit peu mettre le clou. Ah, pardon, excuse-moi.
L'horreur et la comédie sont des genres hyper proches. Ça fait réagir les gens de façon forte. C'est quelque chose où il faut avoir un rythme qui est hyper spécifique. Et c'est pour ça que des films d'horreur, des fois, quand t'es pris par quelque chose qui est un peu fort, tu vas avoir tendance à en rire. L'horreur et l'humour sont vraiment deux genres qui sont hyper proches. Comme l'action et la comédie musicale, c'est deux genres qui sont hyper proches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le film avant qu'on le décide là, ou est-ce que vous l'avez tous vu pour l'émission ?
Je pense qu'ici tout le monde l'a vu pour le podcast. Hein.
Ouais. Ouais.
Même toi, tu l'avais proposé
je propose des films que j'ai pas vus.
Pourquoi tu l'as proposé, Cortès ?
Parce que je savais qu'il avait bidé et que c'est James Wan qui bide sur un film d'horreur. Et comme du coup on en a parlé, il a jamais bidé.
Ouais.
En plus, il a jamais bidé. Mm. Pas que dans les films d'horreur, il a jamais bidé.
Ouais.
Donc là, pour le coup, c'est.
C'est un peu une curiosité.
C'est un peu une curiosité de savoir comment il s'y est pris, quoi.
Mais comment a-t-il fait ?
Comment a-t-il fait pour faire un gadin pareil, quoi ?
Et toi, Jibot, comment est-ce que t'as réceptionné le film ? Comment tu l'as vu ?
Je l'ai regardé un peu au dernier moment. Alors, pas juste matin. Avant d'enregistrer l'épisode, mais oui, ce matin, parce que j'avais oublié que c'était aujourd'hui qu'on enregistrait. donc voilà, j'ai récupéré la cassette chez mon oncle et je l'ai mis dans mon magnétoscope pour le regarder.
Je dis oui à cette ref.
J'ai tellement pas.
Puis voilà, après, comme je suis un gros amateur de Jameson, alors j'ai pas vu tout ce qu'il a fait, mais j'adore la saga Insidious. Genre, surtout le premier, c'est un de mes films d'horreur favoris. Et du coup, je me suis dit, oh, trop bien, un film d'horreur avec James Wan qui bide. Ok, pareil, même curiosité, tu vois. Pourquoi pas? Et voilà, moi, j'ai pas été déçu de ce que j'ai vu pour tout plein de raisons différentes.
On en parlera
plus tard. Oh, il glisse doucement.
Et toi, Galien, dis-nous.
Nous.
Comment
nous.
T'as vu le film ?
Je savais pas trop à quoi m'attendre. Moi, on m'a dit film d'horreur, ça me faisait très peur.
C'est le principe.
Non, mais j'aime pas trop les films d'horreur. Tu vois, c'est vraiment pas un genre. C'est un peu compliqué, ça dépend.
Okay.
Et au final, ça allait.
Ok.
J'ai passé un bon moment.
Bon, très bien. Et toi, Grégoire, dis-nous tout.
Moi, de mon côté, du coup, comme le Galien, je déteste. Enfin, Galien a pas dit qu'il déteste l'horreur, mais moi, c'est vraiment, vraiment pas mon délire. Je déteste un peu ça. Et c'est un peu marrant parce qu'au début j'étais pas à l'aise, je regardais plus mon téléphone où je prenais les notes que l'écran parce que je voulais pas trop voir. Puis à la fin du film j'en avais plus rien à foutre parce que vraiment,
okay.
Tire. Genre en vrai ça passe dans mes carcans donc c'est ok.
Ok. Et donc pour ma part, moi pareil je suis très grande fan de James Wan comme Cortès, comme Giboite. J'adore les films d'horreur, j'aime beaucoup. J'avais jamais vu Malignante parce que j'en avais entendu pas mal de choses négatives à part un podcast, et je ne me rappelle plus si c'était Jumpscare ou Shadowcast, mais j'en ai entendu parler, et en fait, la personne, il y a quelqu'un qui le défendait, et la façon dont il le défendait, j'étais genre, ah mais en vrai ça m'intéresse, c'était la première fois que j'en entendais du bien, et donc j'étais super curieuse, et au final, j'ai regardé le film pour le podcast, je ne l'avais jamais vu avant, parce que j'en avais entendu pas mal de choses négatives quand ça sortait en salle, voilà. On est parti pour résumer le film et c'est moi qui commence. Donc, le film démarre dans quelque chose qui s'apparente à un hôpital et on voit une médecin qui est en train de s'enregistrer, en train de parler et de parler d'un cas. À ce moment-là, une infirmière débarque dans la salle en disant de venir parce que un patient nommé Gabriel est en train de faire des choses pas très gentilles aux infirmiers, infirmières et médecins. Donc, elle débarque en trombe, la lumière est rouge, tu sens qu'il y a quelque chose de très tendu, elle arrive dans la salle, il y a plein de morts, et elle commence à ils attrapent, donc on ne voit que les pieds d'un enfant, on ne voit pas encore à quoi il ressemble, ils l'attrapent, ils l'attachent dans une autre salle, on ne voit pas son visage, on a plein de personnes qui meurent, qui sont mortes dans la salle.
Assez violente d'ailleurs.
Assez violent la première scène. Fatality.
Juste un truc à dire, moi, qui m'a juste marqué très vite. A priori, le truc qui garde, on sait pas ce que c'est.
Non,
c'est ultra violent.
Ouais.
Ça pète des bras. D'où tu gardes ça? T'as pas genre un militaire ou une personne vraiment formée pour ça? Parce que là, c'est des infirmiers, ils sont là pour, ils savent apporter des soins, ils savent pas genre prendre quelqu'un, lui faire une clé de bras. Enfin, genre d'une violence pareille, je trouve qu'ils sont sous-équipés par rapport à ce qui se passe.
C'est très marrant que tu dises ça parce que pourtant, au niveau des policiers, des trucs comme ça, il y aura de l'excès de zèle un peu plus tard dans le film, je trouve.
Ouais, bien
mais
sûr.
Mais là, c'est vrai, ils sont pas gérés.
Ils sont genre 7 professionnels de santé pour garder un gosse. Enfin,
alors on ne sait pas ce qu'est un gosse, parce qu'il y a vraiment des hors-champs.
Si, on voit les chaussettes.
Oui,
on voit des chaussettes.
Alors, moi, je parle de là, quand j'ai noté ça, je n'avais pas encore vu les chaussettes.
Ah oui.
C'est-à-dire que moi, je vois vraiment.
Oui, c'est vrai qu'il y a déjà les pétages
de. C'est une chambre d'enfant quand elle débarque, on voit qu'il y a des dessins au mur, on voit qu'il y a un peu des doudous.
Ouais, mais il se passe plein de.
Avant, t'as
quand même un peu comme un gamin.
Avant, quand tu vois, quelle que ce soit la chambre, tu vois un bras se faire péter. Tu vois un os sortir d'un bras,
ouais.
Et tu te dis pourquoi il n'y a que les infirmiers. Moi j'aurais mis l'armée là-dedans, tu vois.
Okay. Oui, non, mais c'est vrai. En vrai, bon, en l'occurrence, ils arrivent à le maîtriser, ils arrivent à l'attacher. Et à ce moment-là, je crois pas que les lumières clignotent. Par contre, on voit qu'une radio commence à grésiller, à mettre du son. Et on entend donc Gabriel parler par la radio. On comprend qu'il ne peut a priori pas parler et faire des menaces. You've been a bad boy, Gabriel.
Ah, cette phrase. 3 minutes 30. On est à 3 minutes 30 de film. Il y a cette phrase qui sort. C'est incroyable.
Alors, petite dédicace à Sony qui a sponsorisé toutes les radios du film.
C'est vrai.
Voilà, je trouve que c'était un beau placement de produit et pas très subtil. C'est pas le premier film qui fera ça, mais ça m'a fait
plaisir. Pas le dernier non plus, mais c'est vraiment très marrant.
En tout cas, on comprend dès le début du film que le visage de ce personnage est quelque chose d'important et qu'il y a une raison pour laquelle on... Moi, j'ai vu pas mal de films d'horreur, mais je me dis, il y a un truc par rapport au visage. On arrive ensuite, on change complètement de scène.
Il y a un petit point générique que je trouvais très long. Et moi qui n'aime pas trop le graphique, beaucoup trop graphique.
Ah oui, le générique est très gore.
Ça
sort du scalpel, éviscère, ça enlève.
Moi, je regardais.
Oui, des dessins médicaux, d'opérations, des trucs comme ça. Oui.
Et c'est filmé un peu avec du grain VHS, comme si c'était les records vraiment de l'opération pour garder une trace. Et donc, on voit
très
vraiment.
Analogue horreur.
C'est ça, très analogue horreur pour le coup. Mais il aime bien l'analogue horreur, oui. James Wan, dans ses délires un petit peu. Et ça éviscère, ça scalpe, et c'est assez graphique, effectivement.
Analogue horreur, c'est un type d'horreur.
Je veux bien parce que.
Alors, analogue horror, c'est un type d'horreur où on va utiliser l'esthétique des années 2000 et des cassettes VHS. C'est ce qui est utilisé notamment pour ceux qui connaissent dans les backrooms, par exemple.
Par exemple. Okay.
Ou Paranormal Activity.
Paranormal Activity, c'est carrément.
On est toujours très proche du fan footage pour ceux qui connaissent.
Ok, ok.
Ça ressemblait à ce qu'on voit dans American Horror Story. Enfin, c'est un peu le même style. Genre au point où j'ai commencé à chercher, à me demander s'il n'y avait pas des réels ou quoi.
Alors, en termes de style, rapidement, parenthèse, American Horror Story, c'est pas le même réel, c'est le showrunner de Glee qui a fait American Horror Story. Si tu regardes les thématiques, c'est les mêmes thématiques que Glee. Mais visuellement, tu sens que James Wan est passé par là. par rapport à la série. Tu sens qu'il a vraiment influencé la patte horreur de cette période, tellement ses films ont eu des succès.
Il n'a pas été sur la série, mais le fait que lui ait passé dans l'horreur...
C'est devenu une influence phénoménale. J'ai l'impression, en tout cas. Moi, c'est l'effet que ça m'a donné. Tu vois.
C'est vraiment inconscient. Il y a toujours un peu de James Wan dans les horreurs qui sont modernes. D'autres modernes, exactement.
On change de décor, on arrive dans la maison d'une jeune femme qui prépare une chambre pour un enfant et qui est enceinte. Elle va discuter avec son mari qui n'en fout pas une.
Qui s'appelle Derek.
Derek.
Voilà, ça va pas être très utile, mais on commence à dire.
C'est son nom. Voilà, c'est son petit nom.
Moi, je l'ai renommé Mec Toxique sur 20.
On va voir pourquoi.
Étonnant. Donc, elle arrive, elle lui demande de baisser le son parce que ça lui fait mal à la tête. Et là, il s'énerve. Il lui dit toi, tu sers à rien. C'est la troisième fois que t'es enceinte. Tu perds tes bébés tout le temps. C'est de ta faute et tout.
À ce moment-là du film, je me suis dit, oula, ça démarre très très mal, parce que vraiment, cette scène, elle est pas folle, et vraiment l'interaction du personnage, je me suis dit, ouh, j'espère qu'on va pas le voir longtemps, lui, ça démarre sur les chapeaux rouges, je suis en mode, putain, c'est gratuit, on a zéro contexte, on sait pas qui sont les personnages, etc. C'est vraiment ça qui sert de mise en contexte.
Ouais, il s'énerve un petit peu, elle le repousse, et il lui envoie un pain dans la figure, ça la cogne contre le mur, et là, oh non, il se sent trop désolé, donc elle se cogne l'arrière de la tête.
Ouais, retenez bien qu'au début du film, du coup, face à la violence de son petit copain ou de son mari, il la pousse et elle se cogne la tête contre le mur. Ce que ça va être...
Wink, wink.
Voilà, juste ça, et pourtant...
Parce que ce que j'aime bien, c'est que texto sensu dans le texte, il lui dit faut que t'arrêtes de tomber enceinte. Sais pas, mais une capote.
Non, mais hashtag Derek est un connard.
C'est un enfer. Enfin, vraiment, mais frérot, un effort quoi.
Il la pousse, elle tombe, et il est en mode je suis désolée chérie, attends, je vais aller chercher de la glace. Et il descend, et évidemment qu'elle va lui faire confiance. C'est juste un homme qui l'a tapé et qui va lui chercher de la glace. Il va lui dire pardon, lui ramener des fleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas confiance à ce genre de personne? Elle s'enferme à l'intérieur de la chambre. Tu le vois un petit peu plus tard sur le canapé parce que, il a quand même été un fiefé connard. Un fiefé connard. Un très mauvais garçon. Il est en train de dormir sur son canapé et quelque chose le réveille. Il relève la tête, il voit que la porte la porte de cuisine, parce que souvent dans les maisons américaines, il y a une porte à l'arrière au niveau de la cuisine qui est ouverte. Alors il se lève pour aller la fermer. À ce moment-là, la télé dans le salon se rallume, donc il fait le tour pour aller trouver la télé et il voit une ombre qui... Ah oui, c'est ça, cette scène est super jolie. Il arrive dans le salon, la lumière est allumée et on voit avec le reflet de la lumière de la télé qu'il y a une silhouette de quelqu'un assis sur le canapé. Là, il allume la lumière et la silhouette a complètement disparu. Et il se dit, oh, mais ce n'était un rêve. Et il décide de...
Et d'ailleurs, dans les effets sympas, on voit encore le canapé qui se regonfle avec le poids.
Donc en fait, il y a pas vraiment quelqu'un qui
était là. C'est ça, il n'y a pas ce doute de, non, mais c'est mon imagination. Non, il y a vraiment le poids physique.
Il y a un coussin qui met du temps en plus. C'est vraiment genre le coussin qui reprend sa forme initiale, ça met vraiment du temps. Il cherche la présence et en fait, la silhouette apparaît donc derrière lui. Et à ce moment-là, lui plante un couteau dans le cou. Maddie entend un bruit depuis la chambre, elle se réveille. On voit qu'elle a bien saigné de la tête sur son oreiller.
D'ailleurs, je crois que Maddie est infirmière, non?
Elle a une tenue qui ressemble à une tenue d'infirmière au début.
Et j'étais là en mode, mais tu veux pas te mettre un bandage, meuf? Enfin, ça va s'infecter un petit peu. Enfin, même faut aller à l'hôpital.
Alors, sachant qu'elle a du sang derrière le crâne, mais après qu'elle a eu le crâne percuté contre le mur, elle saignait déjà. Donc, à ce moment-là, c'est un peu, elle est toujours blessée de
la violence.
Super mari lui a fracassé le crâne contre le mur.
C'est pas comme ça quand on est en couple, c'est pas un truc normal.
C'est pas comme ça qu'on dit je t'aime.
Bon, elle descend voir ce qui se passe et voit que son mari est mort à côté du canapé avec vraiment les cervicales qui font un angle qui n'est pas le même que l'angle de sa tête. Fatality. On va l'avoir beaucoup ce...
Oui.
Et là, oui, elle voit la silhouette qui se relève de derrière son mari. On a des beaux bruits de craquement. On a un très beau sound design dans ce film. Moi, je trouve que tout... Et même, le film est beau. La silhouette qui peut un peu marcher au mur, on sent que c'est quelque chose qui est pas humain, poursuit Maddie, qui s'enfuit en courant, qui a franchement une super cardio malgré son ventre de femme enceinte. Et on n'a pas beaucoup de souffle quand on est enceinte à ce point. Elle monte les escaliers 4 à 4, elle s'enferme dans la chambre, mais la chose pousse la porte et la fait tomber dans la chambre. Plan extérieur, on voit la police qui arrive chez eux. On retrouve Maddie qui est allongée donc, dans la chambre, quelqu'un qui dit on l'a retrouvée inconsciente dans la chambre. Et on a un plan sur le détective principal du film qui, en fait, on voit pas ce qu'il regarde, mais on voit qu'il a un regard un peu effrayé de « Ouh là là, cette mort, elle est quand même très, très bizarre », en découvrant le cadavre de Derek.
Et d'ailleurs, là, au niveau excès de zèle, genre, ok, il y a eu invasion de maison, il y a eu meurtre, mais il y a genre, quoi, 5-6 bagnoles de flics.
Il y a un hélico.
Et il y a un hélicoptère. Donc en fait, c'est pas qu'en fait, ils avaient pas de militaires ou de flics dans le truc d'hôpital, c'est juste qu'en fait, ils étaient tous chez Maddy, mon pote. Ils avaient plus personne.
Alors non, pour le coup, c'est 20 ans plus tard. Enfin, faut pas.
Oui, non, c'est 20 ans plus tard, c'est pas dans la même.
Alors que.
On a un fast-forward.
Alors 30 ans plus tard.
30
ans plus tard, ouais. Et alors que pour le coup. À la base, les flics ne se sont déplacés que parce que les voisins s'étaient plaints du bruit.
En plus,
tu te dis waouh.
Ouais, ils font un peu trop de bruit. Putain, un homme voit l'armée là, c'est parti. Un homme voit le tank là. Vous faites trop de bruit.
C'est des voisins de droite, hein.
Ouais. Des États-Unis.
Non, parce que moi, quand je dis que mon voisin, j'entends des bruits de cris, il n'y a pas trop les flics qui se déplacent.
Ah non, bah non, ils s'en battent les couilles.
C'est pour ça que c'est une fiction.
Voilà. Oui, alors, la police dans ce film, c'est un délire. Bon, j'en reparlerai.
Donc ensuite, on retrouve Maddy qui se réveille à l'hôpital, qui apprend en même temps la mort de son mari et de son enfant, parce qu'elle n'est plus enceinte. Super journée pour Maddy. Quelques jours après, le détective qu'on a vu chez elle vient lui poser des questions. Vient poser des questions à Maddy qui est dans un état catatonique. Wicker.
Et on arrive et aussi on rencontre la sœur de Maddy, Sydney.
Au moment où il ah non,
au moment
là.
Où elle a perdu le bébé, parce qu'elle est déjà là. Elle est déjà là. Ensuite, on la revoit effectivement quand tu as Cho qui arrive et qu'elle est en tenue de princesse parce
Cho,
que
Cho c'est le détective.
Cho c'est donc le détective.
C'est Cho Kekoa.
Kekoa Cho.
Kekoa Cho.
Kekoa Cho. La sœur, elle arrive en tenue de Disney.
Oui.
Et je t'en oh, trop bien.
Oui.
Je voyais un peu de lumière. En fait, il faisait enfin jour dans ce film et il y avait enfin un personnage un peu lumineux. Je t'en ah.
Donc oui, bah au moment en fait, elle habille en princesse Disney quand le détective vient poser des questions à Maddy qui est dans un état catatonique et en fait elle arrive en mode ah genre désolée, je vais c'est ma pause déj, je vais voir ma sœur et elle explique qu'en fait elle travaille dans un centre commercial, je crois.
Elle anime et tout ça parce qu'elle est actrice de base et en fait elle cherche un rôle et donc en attendant elle arrondit les fins de mois. Ouais. Cette information ne servira à rien pour le reste du film.
C'est vrai.
Mais elle a une belle robe. Bon, donc le détective pose des questions à sa sœur donc à la sœur, tu m'as dit qui s'appelait
Sydney.
Et en fait on apprend que bah en fait Sydney était même pas au courant que Maddy avait déjà fait des fausses couches parce que Derek l'avait éloigné de toute la famille. Un super mec. On change encore de scène, on arrive dans la salle d'autopsie, on voit le corps de Derek et l'autre détective qui explique qu'en fait bah là ce qu'on peut voir c'est que il y avait pas l'entrée n'a pas été forcée, les voisins ont entendu du bruit. Donc bon, a priori, la seule personne qui a pu faire le coup, c'est Maddy et elle est notre suspect numéro 1.
Suspect numéro 1 parce qu'elle a un mobile, c'est que les gens savaient que elle était battue par son mari.
Oui.
Mais il y a un truc qui les interroge, c'est que les circonstances de la mort de Derek font que normalement la blessure, c'est une blessure que t'as genre en cas de choc extrêmement violent, d'accident de voiture. Donc pas un truc qu'un être humain peut faire normalement.
Encore moins une femme enceinte.
Encore moins une femme enceinte.
En plus, j'ai eu l'impression que c'était un coup de couteau, mais en fait, c'est pas un coup de couteau.
Non, il lui brise la nuque.
Oui, c'est ça. Mais
très violent.
Quand je l'ai vu, j'étais persuadée que c'était un coup de couteau, et c'est après tout.
Je l'ai dit avec un petit accent du sud. Un plus.
Un plus.
Oh purée, je te jure, il lâche là, ce l'autre là.
Nous sommes 2 semaines plus tard et Madison rentre avec sa sœur Sydney chez elle. Celle-ci propose de rester avec elle pour la soutenir du trauma de la mort de Derek et de la perte de son bébé. Mais Maddy dit « Non, t'inquiète, ça va aller, c'est pas la peine. »
Et je gère.
Retourne vivre dans sa maison où son mari est mort. Bref, un soir, alors qu'elle prend sa douche, elle voit les lampadaires qui font blinks blink dans la rue et une silhouette noire. La musique s'emballe et elle décide de verrouiller tous les accès de la maison. Mais pas de chance, la porte arrière est ouverte. Elle se réouvre, c'est la panique. La caméra tourne autour de Madison. Puis, séquence Sims en vue du dessus, très jolie, où on la voit parcourir toutes les pièces de la maison pour se barricader dans la chambre.
Elle est magnifique, cette
scène. La scène est trop belle. J'ai pas compris pourquoi, mais elle est trop belle.
Plan zénital, Dieu qui te juge, tout ça, c'est généralement ces trucs-là.
Je pense que c'est vraiment pour la beauté du truc.
Ah ouais, lui, il kiffe.
Moi, j'ai cru, parce que comme c'est pas la première fois que James Wan fout des trucs au plafond, j'ai cru qu'il y avait un truc au plafond qui l'observait en fait. Et je me suis dit, oh, ça aurait été trop cool.
Après, on voit que l'ombre qu'il a poursuivie au tout début monte au plafond.
C'est vrai.
Tout à fait.
Pour le coup, c'est vraiment comme si on voyait la maison mais sans le toit. C'est intéressant.
Je pense que JB l'a très bien dit, JBoit l'a très bien dit. C'est un effet Sims. Moi, j'ai adoré ça. Je trouve ça trop marrant.
Bref, c'est la panique. Et la tension retombe quand même assez rapidement, car Maddy se persuade que tout est dans sa tête. Et c'est pas. Et c'est le cas de le dire.
Complètement faux.
Ouais.
Montage.
Ah oui, d'ailleurs, je tiens
à faire
un petit disclaimer parce que je pense que plus ça va aller, plus on va spoil. Si jamais vous voulez pas être spoil pour ce film, parce qu'il y a vaguement un twist, voilà, n'écoutez pas. Allez voir le film avant.
Oui.
Oui.
On est bon.
Si, c'est quand même un peu basé sur un truc de twist.
C'est vrai, c'est vrai. on arrive du coup déjà le lendemain matin où la situation s'est calmée, mais Madison, paniquée, décide de verrouiller et de barricader toute la maison avec des planches, des clous, etc. Voilà, elle bricole. Et on la retrouve juste après en train de fixer le mur sur lequel feu son mari lui avait éclaté le crâne. Plus tard, sa sœur Sydney lui rend visite, ne peut pas rentrer par la maison barricadée, donc sa sœur lui ouvre par la fenêtre, apparemment au deuxième étage.
Oui, non mais alors, cette scène-là, elle est extraordinaire. Moi, en fait, je pense que c'est le screamer le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Parce que c'est pas traité comme un screamer, mais on a le plan où tu as Maddy qui regarde la trace du mur où son mari la battait, et on a un léger panoramique sur la fenêtre, et on a la sœur qui regarde s'il y a quelqu'un à l'intérieur, et elle a vraiment trop peur. Et je me dis, mais c'était quoi ça?
Mais surtout, en plus, tu dis, mais si sa sœur arrive à passer par là, en fait, ça a servi strictement à rien.
Après, c'est elle qui lui ouvre.
Oui, mais tu peux péter une fenêtre.
Ouais, là, pour le
oui,
coup,
mais t'as vu la gueule des verrous qu'elle met, tu peux les péter en donnant un coup dans la porte. Hein.
Alors, Galien, notre cambrioleur préféré.
En fait, elle avait pas fini, elle a fait une petite pause nostalgique sur le mur, et puis ensuite, elle allait reprendre dans les travaux.
Donc, suite à cela, s'ensuit une discussion sur feu le mari violent et le fait que Madison n'a pas de famille de sang et que c'est pour ça qu'elle voulait un bébé, parce qu'en fait elle révèle à sa sœur, qui ne le savait pas, qu'elle était adoptée. Et attention, ça c'est un des plots importants du film. Tintintin, clin d'œil, clin d'œil.
Et le point, et que j'adore, c'est que à ce moment-là, quand l'actrice de la sœur l'apprend, acteur studio.
Choc barre de BZ.
Ah, mais elle est incroyable.
Non, elle est nulle.
Ah, moi,
la tête qu'elle a est nulle.
Ah, moi, Bah ouais, non,
oh,
tu es en train de refaire toute ta vie. Moi, je trouve que c'était bien.
Moi, la seule question que je me pose, c'est qu'elles ont à peu près entre 30 et 40 ans, on va dire, globalement, genre, maintenant. On va le dire maintenant. Parce que, écoute,
juste après avoir
perdu le bébé.
Et juste après avoir appris que, en fait, elle a fait plusieurs fausses couches, mais j'étais même pas au courant de sa vie.
Et en fait, tu n'es pas ma sœur. Allez, zoub.
Après, ça s'expliquait pourquoi elle est pas au courant de sa vie, du coup.
Non, mais je sais, mais la sœur, t'imagines, de son côté, elle apprend que.
Elle apprend beaucoup de choses en très peu de temps.
Pauvre Sydney.
C'est ça. Suite à cette révélation, on enchaîne sur un plan aérien de Seattle avec un remix un peu bizarre de Where Is My Mind.
Qui est dégueulasse.
J'ai vérifié d'ailleurs, c'est bien une reprise de Where Is My Mind, c'est crédité au générique. Mm-hmm. Elle est vraiment pas bien.
Non, elle est vraiment.
Et
j'avais même pas compris que c'était une reprise.
Ah, pour te dire, on dirait une musique de bande-annonce.
Oui. Mais à un moment, je me suis demandé est-ce que c'est une ref à Fight Club, je sais pas, parce que Where Is My Mind.
La vue aérienne, c'est très David Fincher.
Ouais, non mais
j'en reparlerai plus tard, mais pour moi, c'est carrément une ref à Fight Club. Et ça m'a bien induit en erreur sur un point.
Mais
après.
Mais c'est ça. Et on enchaîne en fait sur une femme d'une cinquantaine d'années, je dirais, à tout casser, qui est guide dans les souterrains de Seattle. Elle fait la visite des anciennes rues qui sont sous terre et qui ne sont plus accessibles parce que la ville a été construite d'un étage au-dessus.
Je savais pas du tout ça. J'ai perdu une heure pendant que je regardais le film, parce que j'ai mis sur pause et je vais faire des recherches, et c'est super intéressant.
En fait, alors, ce qu'on va vivre là, c'est que Grégoire, pendant tout le film, va essayer de se persuader qu'il ne regarde pas de film d'horreur. Oui. Il pense qu'il regarde un film d'action,
un documentaire
sur Seattle. Alors... Pour lui, ce n'est pas un film d'horreur, tu es dans le déni, Grégoire.
Non, alors, en vrai, c'est super intéressant le truc des sous-sols.
Mais je n'en doute pas.
Mais oui, je suis complètement dans le déni. Oui, il n'y a pas tout Seattle.
Grégoire,
c'est, vraiment... oui.
C'est comme ça qu'on devient cataphile.
T'as eu un bruit de moto.
Alors que la guide, dont on ne connaît pas le nom, c'est un nouveau personnage, a fini sa journée, elle commence à éteindre les lumières, puis entend des bruits dans la pénombre. Elle interpelle le prétendu intrus, mais pas de réponse. De nouveau des bruits, elle commence à paniquer un petit peu et se précipite pour brancher la prise électrique. Mais nous sommes dans un film d'horreur, donc c'est compliqué. Elle tremble des mains. Et attention, la caméra va l'attraper. En fait, non. Elle allume la lumière et il n'y a rien.
Et tout va bien.
Ah oui, j'ai insisté là-dessus parce que vraiment, ce plan de la caméra qui se rapproche dans son dos...
C'était une blague du caméraman.
Non, mais c'est ça, ça me fait trop rire. C'est un truc que tu vois souvent dans les films d'horreur et à chaque fois, j'imagine le caméraman en mode « Attention, la caméra va t'attraper.
Je vais te croquer. »
Donc en fait non, elle allume la lumière et y a rien. Eh bien si, au-dessus, une silhouette aux cheveux longs de dos portant les mêmes vêtements que Madison saute sur la guide. Cette silhouette, si vous voyez, c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter 1, on distingue un crâne ensanglanté à l'arrière. Vraiment, moi j'ai compris le plot du film sur cette image-là. J'ai vu le crâne, j'ai vu les vêtements, j'ai fait « Ok, elle a un truc à l'arrière. »
On n'en dira pas plus.
Ah, moi, sérieux? Je l'ai pas vu, mais je crois que c'est parce que je regardais pas.
On n'en dira pas plus.
Je crois que je regardais pas aussi. Enfin, alors, c'est les moments où, tu sais, je regarde comme ça, genre...
Oui, c'est ça.
Il cachait les yeux.
Alors, si tu peux cacher tes yeux derrière tes mains, mais si tu caches ta bouche derrière ton micro...
Oui, c'est vrai que ça marche moins bien.
Mais... Voilà.
Donc ouais, ok, d'accord. Moi j'avais pas à ce moment-là.
Alors là, ça serait super intéressant du coup si toi t'as compris le plot avec tout ce qu'on a raconté là. Est-ce que tu penses savoir ce qui peut se passer plus tard dans le film ?
Bah je sais pas, mais j'ai fait un peu de recherche sur James Wan et visiblement il y a un truc chez lui avec la maternité, voilà. Donc en plus moi c'est les des thèmes qui me trigger de ouf. Je me dis peut-être c'est pas plus mal que je l'ai pas vu. Voilà.
La dame se retrouve enfermée dans ce qui ressemble à un grenier et la créature du début qui parle à travers la radio, parce que voilà, on entend que c'est la même voix, la menace, mais lui dit que elle, c'est la pièce finale et que d'abord, il faut appeler la docteur Weaver, qui est la fameuse médecin qu'on a vue dans la scène d'introduction. Donc la créature appelle le docteur Weaver et lui répète la fameuse réplique du cancer du début. Alors oui, moi, je le mettais en VF.
Il va falloir enlever ce cancer.
Voilà, il va falloir retirer ce cancer.
Oui, c'est une phrase qui est dite au début, que je n'ai pas dit dans ma partie de résumé, mais c'est une phrase qu'on entend aussi.
C'est quoi en VO?
Quasiment la même chose. We're gonna take out that cancer.
Ok.
Ah, parle-moi en anglais dans l'oreille.
Mmh. Yes, of course. Donc là, on est en train de suivre la docteure qui est dans sa maison et se rappelant les mots qui sont prononcés au téléphone, recherche dans ses dossiers et retrouve le dossier du patient May qui s'est terminé en 1993. Bizarrement, la même année que l'intro du film. Elle check une photo et regarde dans le vide, l'air apeuré. Ouh.
On retourne donc à Maddy qui, de son côté, récupère le linge pour faire la lessive. Enfin quelque chose de normal dans ce film. Mais en descendant les escaliers, elle voit quelque chose passer furtivement et en fait, elle se pose pas plus de questions que ça. Genre vraiment, elle fait « Ok !» et elle continue de faire sa lessive.
Ça, c'est clairement
un trope de film.
Un jumpscare à la James Wan, quelque chose qui court avec un son. Genre juste, ça sort du plan. Et c'est un truc qui aussi, que j'aime beaucoup. Moi, j'ai trouvé très efficace. C'est un des jumpscares que j'ai trouvé très efficace.
Ah ouais, moi, je l'ai pas vu, je crois.
J'ai trouvé très anecdotique parce que la silhouette, je trouvais que ça faisait trop silhouette d'enfant. Alors ouais, je me suis dit, est-ce qu'elle hallucine de voir...
Ouais, mais je comprends pas ce que ça va faire dans l'histoire, mais j'ai trouvé que le jumpscare était efficace.
Le plan est très beau.
Mais bref, elle trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Elle continue d'aller faire sa lessive malgré qu'elle se remette à saigner de la tête. Truc récurrent. Je pense que c'est dommage, elle a passé 2 semaines à l'hôpital. Ils auraient pu bien la recoudre quand même. Merde. Mais bon.
J'ai une question. Ouais. Parce que j'ai trouvé des images où effectivement, t'as une plaie béante, là, toute dégueu derrière la tête.
Est-ce qu'elle va... Alors, mesdames et messieurs, si vous voyez le visage de Laure qui est en mode oh, elle a tout compris, ta-na-na, 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 musique de
oh,
saut,
ta-na-na,
ta-na-na, ta-na-na. On n'en dira pas plus, mais bon.
Ouais, bon, vas-y, Grégoire.
Il y a. Pour un thriller.
Elle a peut-être pas compris.
Ou elle a peut-être pas compris.
Elle a pas encore compris, mais c'est pas grave, c'est ma prochaine partie.
Je dis la fin du film.
Je ne dis plus rien.
Et pendant qu'elle remplit le tambour, je sais pas pourquoi j'ai bien aimé le plan où on la voit depuis le tambour de Julie.
Oui, ils ont fait chier en plus.
Il y a Mété Kudasai.
On dirait un petit côté fisheye en plus parce que on dirait que le truc est énorme.
Ouais, ouais, alors, mais
alors, je sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc qui fait bander les cinéastes, mais je sais pas pourquoi le nombre de films où t'as des plans depuis la machine à laver.
Ou le four.
Ou le four, le frigo.
Ouais.
Et voilà. Alors, et vous regardez beaucoup trop de porno, mais ok.
Mais non, mais elle reste pas bloquée, elle se penche pas
dedans.
Franchement,
c'est toi qui dis ça.
Oh, allez, oui. Ça c'est fait.
Léa, polyamoureuse en 1m50.
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait à la fois du podcast, mais aussi un espèce de Tinder.
Elle fait sa pub. Léa, elle fait sa pub. Elle profite qu'on lui laisse une place quelque part pour faire sa pub. Donc, pendant qu'elle remplit le tambour depuis une scène, donc on voit le tambour, une personne apparaît de l'autre côté du hublot, ce qui fait faire un gros screamer à nous et à Maddy. Cette scène m'a fait bugger parce qu'en fait, au début, je pensais qu'on avait que la tête de la personne derrière le hublot. Mais en fait, on voit aussi le corps.
Oui, on voit le reste.
Je pense que c'est voulu au début.
Ouais. Et en fait, j'ai tendance à me dire, il est vachement mal fait cet effet. Puis j'ai compris que c'était voulu. Voilà, exactement.
Toujours le déni, en fait. C'est ça, c'est le déni.
Ah, mais toujours. Ah, mais...
On est full dans le déni.
Oui, moi, ça m'a fait croire qu'en fait, c'était l'ombre qu'on voit depuis le début, là.
Je pensais que c'était.
On voyait enfin son visage et là, d'un coup, bouh!
Ouais, mais de toute façon, oui, ça cheveux blancs et tout.
On reconnaît le docteur Weaver qui demande « Mais qu'est-ce que tu fous chez moi ?» Maddy qui répond « Bah en fait, on est chez moi. » Et en fait, on comprend que Maddy est bloquée, enfin, elle le comprend elle-même d'ailleurs, sur le sol. Et qu'en fait, ce qu'elle voit, c'est donc une vision. Et on a un effet magnifique qui vaut de la plus belle pub pour de la réalité augmentée que j'ai jamais vue. Parce que pour moi, c'est ça, hein. Où t'as le décor qui change et elle se retrouve dans une autre maison.
Le décor dégouline littéralement.
Ouais,
c'est une pub pour de l'air, je suis désolé.
Alors, c'est très drôle que tu dises ça, mais c'est quand même ouf. C'est mon effet préféré du film. Ouais, genre, je trouve l'effet trop bien. On le reverra peut-être plus tard. Et il est trop bien.
Mais il est magnifique, hein. Mais moi, vraiment, j'ai vu une pub pour de la réalité augmentée. J'étais mort. Le décor change et Maddy se retrouve littéralement dans l'appartement du docteur Weaver à la regarder se faire assassiner sans pouvoir ne rien faire.
Fatality. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu sa mort parce que
justement, j'y viens. Voilà. Le monstre, pendant ce temps, moi, je ne sais pas ce que c'est, j'appelle ça le monstre, chope un trophée de médecin. Donc globalement, donc tu as une grosse base de trophées avec une genre de lame entourée de serpents et des petits trucs, enfin un machin de médecin, quoi. Ouais. Le prend et tabasse la gueule du docteur Weaver avec le poids du trophée, le bout, le gros socle dans la gueule. C'est particulièrement violent. Moi, j'avoue, j'ai bien aimé. C'était savage. Voilà.
Surtout qu'en fait, je crois que il y a l'espèce de table ou de cuisine à manger. Du coup, on voit pas l'impact. On voit juste les gerbes de sang qui éclatent de partout.
Et j'ai beaucoup aimé cette petite attention envers les gens comme moi, le fait qu'on ne voit pas plus de détails que ça.
Anecdote rapidement sur la lame, il y a marqué excellence, d'où le mot que j'ai gardé. Parce que mine de rien, c'est un objet qu'on revoit beaucoup de fois dans le film. Ouais.
En fait, je viens de remarquer, Greg, t'as vraiment pris le passage où il y a les deux meurtres.
Ouais.
Ok.
Pourquoi ?
Ah non, j'aime bien. Bah pour un gars qui aime pas les films d'horreur, t'as vraiment pris le passage où il y a les deux meurtres.
Parce que j'ai bien aimé ces passages. Voilà, tout simplement.
Pardon.
En fait, si ça se trouve, t'aimes bien les films d'horreur, mais tu le sais pas.
Alors, il est dans le déni du déni.
après, c'est comme beaucoup avec les films d'horreur, ça dépend des films. Enfin, chez les gens qui disent qu'ils aiment pas les films d'horreur, en fait, ça dépend des films.
Mais oui,
c'est très varié.
Je sais très bien qu'il y en a plein que je pourrais aimer, juste que par défaut, je dis que j'aime pas parce qu'on me met pas devant des trucs où il y a des gens qui se font découper en petit bout par petit bout.
C'est un type de film d'horreur, ça.
C'est un type de film d'horreur, mais connaissant mes potes, je préfère dire que je n'aime pas les films d'horreur.
Je comprends.
Maddy se réveille enfin chez elle et on retrouve la police au petit matin venant enquêter sur le meurtre du docteur Weaver. On y retrouve donc je crois que vous en avez pas parlé, mais la meuf de la scientifique qui a l'air d'être complètement à fond sur le policier Shao.
Effectivement, oui, elle s'appelle Winnie.
Winnie, oh putain, j'avais pas son nom, merci. Qui est complètement à fond sur Winnie, et en vrai, moi je la trouve un peu mimes.
Elle est très mimes. Ah, mais moi je vais parler du cast. Moi, full crush sur tout le cast, quasiment.
Mais toi, tu aimes les franges.
Même Gabriel.
Surtout Gabriel.
On parlera de Gabriel après.
C'est vrai qu'ils sont tous très beaux. Ils ont tous beaucoup de charme.
On dirait qu'ils seraient des acteurs dans un film.
JB en train de bugger, il a sorti ça.
Non, mais en fait, je réfléchissais. C'est vrai qu'il y a ce trope de la nana de la.
Mais en fait,
de la scientifique qui flash sur Kekoa.
Est-ce que je peux te dire l'info maintenant ?
De quoi ?
C'est la femme de James Wan.
Ah ouais?
C'est l'actrice, c'est la femme de James Wan.
Alors, comme si c'était un spoiler du film, genre je peux dire l'info.
Non, je sais pas. Si
non, non, mais je
dans la description. Dans le...
Tu noteras que je l'avais pas du tout. Et donc, en fait, globalement, Kikoa dit oui, il faudrait trouver l'autre moitié du trophée parce qu'il n'y a que le pied et que le trophée est pété en deux. Et qu'elle lui répond oh, vous savez, on cherche tous notre autre moitié.
C'est la même en VO. C'est la même.
Ah, cool.
We're searching the other half. Ah, don't we all? C'est vraiment ça, je crois.
Et lui ne calcule absolument pas. Et lui, à la place, prend la décision de prendre toutes les archives du docteur Weaver qu'il y a derrière le bureau du docteur pour voir s'il ne peut pas trouver une piste. Alors, pour vous dire, la bibliothèque derrière celle du docteur, c'est 3 mètres de haut, 2 mètres de large, remplie d'archives. Bon, bah voilà, théoriquement, ils en ont pour 6 mois. Hein, vraiment.
Genre... Ouais, mais comme ils sont 17 plus un hélicoptère.
Ouais, mais en fait, la meuf lui fait, enfin, l'autre inspectrice lui dit, putain, mais tu vas faire ça tout seul, t'en as pour v'là longtemps. Et puis lui de répondre, bah non, tu vas m'aider.
Oui, mais il trouve, avant d'embarquer les dossiers, il trouve la photo que la docteur Weaver avait sortie du fameux dossier 93 et il la voit et il réagit pas tout de suite, mais il a un petit doute, il y a un truc, il voit qu'il y a un truc qui est bizarre avec cette photo, vu qu'elle a du sang et tout. Ouais, voilà, c'est l'instinct de flic. Et il se dit, il y a un truc avec cette photo et c'est ça qui va peut-être l'aider.
On retourne au monstre, qui donc avait gardé la deuxième partie du trophée et qui est en train de le retravailler, style forgeron, pour en faire pour être une mare.
Non, pardon, parce que quand j'ai vu cette scène, j'ai imaginé l'émission, tu sais, le meilleur forgeron.
Oh oui, oh, let's go. Donc, il était vraiment genre, il a tout le matos, donc il enlève les serpents autour, il écarte les palmes sur le côté ouais. pour vraiment qu'il y ait de la place, il lime le bout pointu. Bref, il en fait un poignard, un très gros poignard. Tout ça pour se demander, franchement, avec tout le matos que t'as, t'avais pas un couteau sinon ?
Non, mais en fait, c'est comment s'appelle ce truc de la médecine, le symbole de la médecine avec les deux serpants, le poignard et les deux serpents, c'est
le caducée.
En fait, ouais, le caducée. Voilà.
Et enfin, je sais.
Ah, oui. C'est pas ça le point. C'est que le gars, il a tout.
Tu caducée ?
Mais le point qui marque, c'est que le gars, il a vraiment tout le matos pour, à partir d'un bout d'acier, en faire une épée, mais il a pas un couteau.
Oui, mais parce qu'en fait, c'est le symbole de.
C'est le symbole de la médecine qui n'a pas pris soin de lui. Donc il va utiliser la médecine pour tuer les médecins qui.
Ok, bah là, my bad, j'avais pas du tout.
C'est symbolique.
Et tout ça sous l'œil terrifié de la guide touristique, toujours suspendue à sa main cave. Pendant ce temps-là, Maddie, de son côté, commence à expliquer à Sydney qu'elle a vu le docteur Weaver mourir. Et là, j'ai fait, mais en fait, c'est bon, c'est Minority Report.
Ou un épisode de Medium. Mais oui, c'est Minority Report. Oui.
Ça y est.
C'est ça que je voulais avoir comme réaction.
D'accord, oui.
Mais elle n'a pas pu empêcher le meurtre avant. Contrairement à Minority Report.
Bien sûr, mais bien voilà, sûr. À ce moment-là.
Mais
bon,
c'est vrai qu'il y a.
J'étais toujours dans mon déni, moi.
Oui, c'est ça. Oh, c'est un film de SF maintenant.
Voilà.
Il est où, Tom Cruise? Oui, c'est
ça. Pendant ce temps-là, l'agent Shaw continue les recherches et demande à un employé de commissariat de vieillir une photo d'une enfant des archives. C'est Maddie. C'est la photo de Maddie qu'il avait trouvée sur le.
Oui, mais lui, il la connaît pas.
Lui, il la connaît pas, mais nous, on la connaît. Non, mais en vrai, tu l'as vu, tu sais que c'est Maddie, quoi.
Oui.
C'est pour ça que je le. Voilà. Pour voir à quoi elle ressemblerait maintenant. Donc il dit, tu l'as vieilli de 30 ans. Résultat à venir, parce que ça se fait pas comme ça. Et nous nous retrouvons dans l'appart d'un vieux monsieur qui parle au téléphone du meurtre du docteur Weaver. Je sais pas qui c'est. Quand tout d'un coup, une fenêtre auparavant fermée est d'un coup ouverte. Et je me demande bien ce que ça peut être, une fenêtre qui s'ouvre dans la nuit comme ça. Dans un film de SF. Non, dans un film d'horreur. Non, j'étais pas dans le déni à ce moment-là. Et lui, il la referme, sans plus se poser de questions. Il se pose sur son lit, on a un magnifique plan Wikifit.
Alors qu'il y a une grosse flaque d'eau quand même
oui,
dans
oui.
la fenêtre. Hein.
Non, et puis c'est pas juste qu'il y a une flaque d'eau, c'est qu'il y a de l'eau qui rentre depuis la fenêtre dans la chambre d'hôtel. Alors comme il voit personne, voilà. Mais
je pensais que c'est une chambre d'hôtel, mais non, en fait c'est vraiment son appartement. En fait, c'est le Silver Cup, c'est ce qu'il y a en face.
Ah,
c'est lui l'hôtel. C'est pour ça qu'en fait on reçoit le. C'est lui l'hôtel.
Bah, il est
donc
tout pourri son.
Donc voilà. Donc
ah bah oui, putain, le mec. Clairement, il bouffe la lumière tous les soirs en l'angoisse. Excusez-moi.
Oui, t'inquiète, mais c'est totalement vrai. Du coup, le mec a clairement tous les signes que quelqu'un est rentré chez lui. Il referme la fenêtre. Il s'essuie les mains parce que la fenêtre était mouillée. Il se met sur son lit. On a un super plan Wikifit par-dessous le lit qui me fait mourir de rire. Toujours le déni. Il s'endort et. Fatality. Globalement, un peu plus de détails. En fait, on voit Maddie qui se réveille dans son lit et qui voit face à elle dans le lit le vieux monsieur. Là, je comprends qu'elles sont un peu trauma quand même, parce qu'il y a un vieux monsieur dans ton lit. On remarque, petit détail, que sa place dans le lit, quand on voit les oreillers, elle n'a même pas un tiers du lit. Donc tu comprends que son Derek, là, il prenait vraiment les deux tiers du lit.
Hashtag Derek est un connard.
Hashtag Derek est un connard. Et elle voit donc le monstre passer au-dessus d'elle, utiliser le poignard qu'il a forgé, et globalement
le trucider
plusieurs fois pour être bien sûr, alors et que franchement vu là le tape
et là il y a pas de cut ou pas de cache, c'est vraiment poignard visage.
Et leur petit détail qu'on voit et que je trouve assez marrant, c'est que vu que comment la personne s'installe, enfin se pose, bah il est à l'envers. Genre, on dirait qu'il est dos à la victime.
C'est complètement Voldo. C'est pour ceux qui jouent à Soul Calibur, c'est complètement Voldo.
Tu sais que dans ce podcast, c'est la deuxième fois que tu mentionnes Voldo.
Mais c'est ma DA. C'est Voldo et les cartoons.
Et les Tinder.
Voilà.
Et d'ailleurs, je rebondis sur la scène parce que je pense que c'est le plan le plus connu ou du moins le plus diffusé du film, c'est-à-dire Maddy qui dort, du coup, sur l'horizontale.
C'est l'affiche avec
le monstre qui passe au-dessus d'elle. Et d'ailleurs, on voit encore la déco qu'ils font.
Ouais. Il y a encore un effet déco.
Donc, c'est une nouvelle fois une projection.
Le plan s'arrête sur la scène s'arrête sur un plan du visage du monstre qu'on voit enfin, que je saurais pas décrire. C'est bien
assez
dégueulasse.
Assez indescriptible parce qu'en fait, il est recouvert de cheveux et on devine un œil couvert de chair sanglant qui regarde Maddy.
Moi, j'ai dit, c'est un amas de coupures, de blessures et de croûtes avec un petit œil vert méchant.
Ah, il fait plaisir.
Et des petits chicots, non? On voit pas ces petits chicots.
Ah oui, il y a quelques petits chicots. Bref, autant vous dire que j'étais pas à l'aise et que je pouvais plus être dans le déni.
C'est la fin du déni. Tu mets un fatality pour ton déni.
Je suis déçu.
À ce moment-là, Maddy se réveille en hurlant et sa sœur vient directement et lui dit elle lui avoue que en fait elle voit les meurtres et donc ils décident toutes les deux d'aller parler aux flics de son don. Moi, j'adore ces discussions. Donc elle parle aux deux détectives qui la suivent du fait que elle voit quand même les meurtres de gens qui sont effectivement morts. Sauf que le meurtre qu'elle a vu cette nuit-là, ils ne l'ont pas encore découvert. Donc elle dit, je vais vous donner l'adresse, on va y aller, et s'il est mort, c'est que j'ai un don. Elle se dit pas, s'il est mort, c'est qu'ils vont croire que je l'ai tué. C'est vraiment...
Elle a la conf. Elle est 100% innocente. Pas touché.
Et elle dit donc, pendant son entretien avec les détectives, elle dit genre, c'est ça, la sœur qui est donc actrice, qui dit genre, moi j'ai vu des séries, j'ai joué une médium dans une série policière, donc la preuve que ça marche. Et genre vraiment, il la regarde en mode, mais elle est complètement débile celle-là, mais ils y vont quand même. Et donc, Grégoire.
Et je trouve qu'il trouve pas qu'elle est complètement débile. Je trouve que Cho, il a très envie de se taper Sydney.
Bah, il a chaud, hein.
Ah bah, il a chaud. Moi, j'ai noté, je crois que c'est Sydney qui veut me noter.
Moi, c'est le moment, alors dans la conversation qu'on a, on échange des messages pour préparer l'épisode, où je leur ai envoyé le fait que j'étais en train de voir le film. J'ai dit, oh, c'est le point médium, parce que dans beaucoup de films de James Wan, en fait, il y a beaucoup de médiums dans ces films, surtout dans Insidious et dans Conjuring, et dans tous les spin-offs de Conjuring, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de médiums. C'est vraiment un truc qui le fait kiffer. Et je me suis dit, oh non, ça y est, c'est le moment médium de James Wan, où là, ça va changer d'ambiance, on va avoir une médium qui va arriver et ça va être un autre film, parce que c'est souvent ce qui se passe quand le médium apparaît. Et en fait, non, c'était juste
une petite
boutade. Oh.
J'ai effectivement dit que le détective et la sœur se draguent grave.
Ouais, il y a une petite alchimie entre les deux, là.
Ils montent voir dans cet appartement / chambre d'hôtel moche et effectivement, ils retrouvent le cadavre du gars dans son lit qui est bien amoché, vraiment. Il n'a plus de visage. En fait, il ressemble un peu à ce qu'on a pu apercevoir juste avant de la figure du monstre.
Ouais.
De retour au commissariat, les deux détectives font un portrait robot du visage que Maddy a vu. Cette scène est si drôle. C'est vraiment, ils montrent, ils font genre alors à quoi ressemblait la personne que vous avez vue dans votre vision, et elle décrit un truc, donc littéralement un monstre, et ils montrent le dessin. Ils sont vraiment genre, donc c'est cette personne là que vous avez vue. Ils font une référence à The Goonies. Parce que ça ressemble à un personnage à Sloth.
À Sinnoh. Du coup, c'est Sinnoh en VF.
Ah, c'est Sinnoh.
Okay. Ouais, c'est le nom. C'est la collègue de Shaw, donc qui s'appelle Moss, l'agent Moss, qui est un petit peu, du coup, qui a un petit peu le côté redescend sur Terre. Ouais, elle est là pour calmer Shaw.
C'est un peu Scully.
Ah, c'est totalement Mulder et Scully dans X-Files.
Je veux dire qu'elle est là pour le refroidir.
Pour le refroidir. Ah ouais. Et en fait, elle est là vraiment à faire la référence. Donc, on doit aller chercher le Sinnoh des Goonies, effectivement.
Mais je trouve que ce portrait robot d'un monstre est vraiment hilarant.
Moi, à ce moment-là, j'avais arrêté de suivre l'enquête. Je voulais juste un film sur la romance dysfonctionnelle entre le policier et l'actrice.
Le déni est revenu.
Ah,
c'est
très
une
fort.
Comédie romantique maintenant.
Ouais, j'étais trop chaud parce qu'ils sont trop pipous.
Maddy va se rincer le visage dans les toilettes du commissariat et reçoit un appel anonyme de la même voix qu'on entend au début du film avec le docteur Weaver et la voix. Dans la radio, donc de ce monstre qui l'appelle Emily et qui lui dit qu'il va tuer à nouveau. Et elle dit, mais je m'appelle pas Emily, je m'appelle Madison, vraiment, c'est le truc qui... Alors, j'aurais comment ça, tu as tué, tu sais, c'est pas mon prénom. Et il lui dit que bah, si, en fait, c'est son vrai prénom. Elle raccroche, elle s'en va. Elle est quand même un petit peu secouée, parce qu'en plus, il y a les lumières qui ont clignoté de partout, donc c'est quand même un moment un petit peu traumatisant. Pendant ce temps-là, au commissariat, je l'appelais le détective Bogus.
Ce qui est vrai.
Oui, bien sûr.
Il tombe donc en fait sur. En gros, il retrouve la photo qu'il a demandé à vieillir, la photo de l'enfant qu'il a demandé à vieillir. Il voit le résultat, donc cette photo qui a été vieillie d'une enfant de 8 ans à l'époque. Et c'est littéralement une photo de Maddy. Et il se dit, ah, donc cet enfant, c'est effectivement Maddy.
Donc la meuf qui vient de se barrer, là, c'est en fait notre suspect. Revenez là, s'il vous plaît.
Et il l'appelle même pas.
Moi, c'est ce qui me rend fou à ce niveau-là, c'est que. Dès le début, c'est une suspect. Bon, elle se barre à chaque fois. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun moment des menottes, quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment tranquille, fais ta vie.
Moi, je vais mettre ça sur le fait que le premier meurtre de Derek, pour eux, ça ne peut pas être un être humain normal. Enfin, ça ne peut pas être elle, physiquement, parce que c'était une nana enceinte. Quoi.
Et pourtant, on a une scène bien plus tôt d'autopsie où tu as les deux flics qui sont en mode ouais, enfin, bon, on a.
Mais elle a un mobile.
On a un sacré mobile, ouais.
Oui, puis enfin, les deux suivants. Ah oui, non, c'est vrai qu'en fait je m'étais posé la question, puis je me suis rappelé que dans les papiers elle avait pas le même nom et c'est pour ça qu'il a pas fait le lien.
Ouais.
Ouais, je comprends pas comment est-ce que le monstre qui a autant de cheveux il a pas laissé tomber un cheveu sur une scène de crime.
Alors, celle-là.
Alors, si tu te poses des questions comme ça pendant le film.
Non, parce qu'ils disent qu'ils ont pas trouvé d'empreintes autres que celle de la famille, donc c'est logique. Mais...
Alors, après, il demande à son collègue de vieillir la photo de 30 ans. Après, je trouve, même. Même dans la diégèse du film, ils ont extrêmement bien casté l'actrice qui fait la version de 9 ans.
Ouais.
Et pour moi, n'importe qui voit la photo de 9 ans et fait un peu le rapprochement.
Ouais, clairement.
Non, mais là, pour le coup, c'est même pas un vieillissement. C'est vraiment genre. C'est la
ils ont pris la photo de l'actrice.
Ils ont pris la photo de l'actrice pour dire oh, bah dis donc.
Mais c'est ça.
Donc, au lieu de rentrer chez elle, donc en fait, Maddy et sa sœur prennent la voiture et au lieu de rentrer chez Maddy, ils vont autre part. Donc, Sydney demande mais où est-ce qu'on va et en fait, ils décident de se rendre chez leur mère parce qu'elle dit qu'elle aimerait avoir des réponses parce qu'elle se rend compte qu'il se passe des choses. En fait, l'appel l'a un petit peu retourné. Elle se dit c'est bizarre. Il y a quelque chose qui se passe, surtout qu'en fait, pendant l'appel, la personne lui dit qu'il s'appelle Gabriel. Et elle dit il y a quelque chose autour de Gabriel. Donc elle va voir sa maman et elle lui dit sa mère qui est en chaise roulante et elle lui dit est-ce que tu peux me parler de Gabriel. En ce moment-là, la mère se fige.
Très important. La mère en chaise roulante n'est pas la mère, n'est pas la vraie mère. C'est la mère adoptive.
Ah oui, ils sont allés voir leur mère adoptive.
Donc la mère de Sydney et la mère adoptive de Maddy. Ça c'est juste pour être éclairci un petit peu.
Tu as très bien fait. donc elle décide de leur montrer une vieille VHS de Madison. Quand elle était enfant, quand elle revient, en fait, ils l'ont adoptée peu de temps auparavant.
Analog porn.
Analog, exactement. On voit qu'elle fête son anniversaire donc de 9 ans avec la maman, donc la mère adoptive de Maddy qui est enceinte de Sydney. Et on se rend compte qu'en fait, Madison parle un peu dans le vide. Et quand on lui demande à qui elle parle, elle répond qu'elle parle à Gabriel. Donc on comprend en fait que Gabriel est son ami imaginaire. La maman explique que que à chaque fois qu'elle parlait de Gabriel, c'était des trucs hyper violents et qui leur faisaient beaucoup peur, qui se disaient que si ils lui donnaient beaucoup d'amour, elle allait finir par laisser tomber ce Gabriel. Et c'est effectivement ce qui est arrivé en fait au fur et à mesure du temps. Gabriel était de moins en moins présent. On revient donc, autre plan, au commissariat. Le détective Bogos trouve des clés USB dans le dossier de la médecin avec des enregistrements dessus.
J'ai beaucoup aimé du coup l'espèce de parallèle slash opposition de on garde des données stockées dans des VHS et juste la scène d'après on regarde des données stockées dans des clés USB.
C'est vrai que
le petit parallèle est sympa.
Ouais, petit point tech, moi qui me rends fou. Des clés USB en 93, bien sûr.
Non mais ils ont peut-être archivé des clés sur clés plus tard. Ouais.
Et autre truc, t'es policier, tu branches une clé USB dans ton PC sans l'avoir testée avant. Alors c'est peut-être le petit ingénieur en cybersécurité au fond de moi qui pète un câble.
En plus, ils mettent des plans dessus. Enfin vraiment, ils s'éternisent un petit peu dessus. Ils branchent la clé, ils ouvrent le truc.
Moi, intérieurement, j'étais en train de hurler. Alors c'est peut-être parce qu'on est en train de refaire toute la sécu dans ma boîte, mais j'étais en train de hurler.
Après, bon, si on doit passer par la phase de test de la clé pour vérifier qu'elle n'est pas verrouillée, etc.
Mais j'ai hurlé.
C'est le déni de Grégoire. On est passé d'une comédie romantique à de la prévention du cyber pirate, tu vois.
Exactement. Voilà, j'étais comme un fou, vraiment.
Vérifiez vos clés USB, les enfants.
Voilà.
Donc, retour au commissariat, le détective a trouvé les clés, il regarde ce qu'il y a dessus et il voit un enregistrement de Dr. Weaver. Donc, en fait, c'est l'enregistrement qu'on voit au tout début du film, au moment où elle se fait interrompre parce que Gabriel a fait des bêtises. Et en fait, on voit une photo. En fait, elle présente les deux personnes avec qui elle travaille. Donc, le professeur Field, qui est la personne qui est morte dans son lit peu de temps avant, et un autre médecin qui s'appelle John Gregory, qui n'a pas été retrouvé, qui a priori n'est pas mort à ce moment-là. Et donc, il se dit, on va chercher sur Google qui est John Gregory pour aller directement chez lui pour essayer de le trouver avant qu'il meure, parce qu'a priori il y a un petit pattern.
Ça serait la prochaine cible de notre tueur.
Peut-être. Et en fait, il arrive chez lui, la porte est ouverte, il entre dans la salle de bain et dans la baignoire il y a le cadavre. C'était trop tard.
Il y avait pas un petit truc juste entre le moment où il commence la course poursuite.
Il y a une nouvelle scène de projection où Maddy commence à comprendre un petit peu aussi le pattern de attends, je suis pas chez moi, je vois encore quelqu'un que je ne
elle
connais pas.
Elle le voit juste dans le miroir.
Et du coup là, elle est en train de comprendre à nouveau que cette créature va tuer donc certainement Gabriel. Et effectivement, alors on voit la créature qui arrive et il y a le cut sur Shaw effectivement qui arrive plus tard et effectivement.
On voit pas le meurtre
et Shaw arrive trop tard et on voit le cadavre du pauvre homme gisant dans sa baignoire. Mais est-ce que Gabriel serait vraiment parti?
Maddy est présente dans cette espèce de vision en fait et voit du coup Shaw se ramener et elle est là, elle essaie de le prévenir, lui dire attention, il est là le meurtrier, parce que clairement elle l'a vu dans la pièce juste avant quoi. Sauf que comme d'hab elle peut pas se faire entendre, genre c'est un peu comme si elle était pas vraiment là. Et du coup, il va se faire agresser.
Ouais, il va se faire agresser. Il saute dessus et bagarre.
grosse bagarre. Et en gros, j'ai plus le lien de cette scène parce que moi, j'ai vraiment fait attention à ce qui venait juste après. C'est quand ils sortent sur le balcon.
En fait, il arrive après bagarre. En fait, il arrive à s'échapper. Enfin, ouais. Le meurtrier arrive à s'échapper.
Ouais. Et du coup, tu commences à le voir descendre balcon, chaque balcon en mode gros.
Donc, Assassin's Creed.
C'est ça, c'est très Assassin's Creed. Yakuza like, comme ça.
Donc clairement.
Mais avec des mouvements un peu bizarres en fait.
Le Gabriel, il a des mouvements chelous et ça a l'air d'être un giga athlète quand même. C'est trop bizarre. Et donc l'autre essaie de le poursuivre en descendant ses escaliers aussi vite qu'il peut. D'ailleurs, il y a une scène un peu marrante où du coup à la toute fin il y a plus d'échelle, alors le Gabriel arrive à sauter sur une poubelle pour se réceptionner super bien et tout, manière hyper fluide, et t'as le flic qui essaye de faire pareil, qui fait c'est chaud, oh vas-y on y va,
et il se ruine la tronche.
Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper drôle ce côté qui dénote vraiment beaucoup par rapport à l'archétype des flics des courses poursuites qui normalement tomber de 3 mètres de haut sur une poubelle sur le dos, tranquille, vas-y, je continue. Là, il est en mode oh putain, ma sciatique.
Mais c'est très buddy, c'est même pas cop. Hein, ouais. Parce qu'il le dit, putain, je m'en rends compte de ce que je suis en train de faire, putain, c'est une connerie, et il le fait quand même, tu vois. C'est très comique, ça.
Du coup, il se court après pendant un moment dans des ruelles. On voit du coup Gabriel passer dans des espèces de fenêtres au niveau du sol, des espèces de petites chatières en fait. Moi, ça fait bien, des chatières.
Ça sonnait bien, chatière.
Ça fait un peu catacombe, je sais pas. Bon, donc notre flic chaud le poursuit tant bien que mal. Il galère à à passer tous ces passages un peu acrobatiques où Gabriel a clairement aucun mal à se faufiler à toute berzingue.
Surtout qu'encore une fois, on remarque que le corps de Gabriel marche un petit peu comme l'exorciste dans les escaliers, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté un peu araignée avec
bizarre,
les bras et les jambes où tu sens qu'il est pas il est à quatre pattes mais à l'envers.
Ça ressemble à un humanoïde mais qui a un mouvement tellement bizarre, c'est pas humain, tu vois.
C'est ça, les articulations sont de l'autre côté, sont dans l'autre sens.
Du coup, ça finit dans des espèces de caves d'anciens bâtiments où il y a...
Soubassement.
Des soubassements.
Ça s'appelle un soubassement.
On apprend du vocabulaire ce soir.
Malitorne et soubassement, c'est pour vous.
Merci.
Ou sous-sol. Hein.
Non, je crois qu'en Seineville, c'est vraiment des soubassements.
D'accord.
C'est dans Pee-wee, c'est Pee-wee qui m'a appris ça.
D'accord.
Du coup, j'ai un peu du mal à reconnaître où on est, mais il fait sombre, il y a des espèces de carrioles du Moyen-Âge.
Ah oui, et full brume aussi, on voit pas le sol.
Et de la brume, mais de la brume très épaisse au niveau du sol, et le reste, ça va. À un moment, il y a une carriole qui lui fonce dessus, et qui s'éclate contre un mur.
J'adore, c'est un des rares mecs au monde qui peut dire « Oui, je me suis fait renverser par une carriole de 1889. »
C'est ça, et je l'ai esquivé, je crois.
Je l'ai esquivé, j'ai pris un peu quand même.
Attaque de carriole.
Et d'ailleurs, la carriole. Enfin, bon, là, c'est moi qui ai encore pété un câble, hein, mais on. Ouais, non, vas-y.
La restauration historique continue, j'essaie de deviner quel déni tu es là. Tu vois. La restauration historique, là, il est en mode Stéphane Bern.
Mais non, mais. Ok. L'incendie de Seattle qui a fait qu'ils ont reconstruit la ville par-dessus a eu lieu en 1889. Oh, le film se passe en 2020. Ça fait donc 130 ans que les carrioles, elles ont pas moufté. Et tu vas me dire que le bois, il résiste.
Mais c'est pour les expos, c'est pour les visites.
C'est ouais, dernier, mais là, l'endroit, t'inquiète.
À l'endroit, c'est le, cet endroit-là, c'est... Ah, c'est pour être un stockage. Je suis pas sûr qu'il y ait des visites. Ah. Parce qu'ils passent par des murs et tout, ils escaladent. Oh. Donc pour moi, c'est des endroits un peu abandonnés.
Documentaire historique.
Ça fait clairement abandonné, hein, c'est bizarre.
Donc oui, c'était un déni documentaire historique.
C'est pour ça j'ai un peu du mal à me faire une idée de quel est ce lieu. Quoi.
D'ailleurs, avec cette partie, je suis reparti une demi-heure sur les recherches sur les sous-sols de Seattle. Sachez
il a appris plein de choses. Il a pas regardé le film d'horreur, mais il a appris plein de choses.
Sachez que ça vaut $28 d'aller faire une visite dedans.
Bah, sans compter les billets d'avion.
Non, mais putain, oui, non, mais bien sûr, sans compter les billets d'avion, évidemment.
Pour l'émission, reste une pellicule, bien sûr. Vous pouvez donner au futur Patreon que nous mettrons en ligne dans la description.
Pour aller à Seattle.
Moi, je veux trop y aller.
Vous aurez un code avec une réduction, le code de soubassement.
RIP50.
Voilà, du coup, la course-poursuite s'arrête un petit peu dans cette pièce où, genre, il y a de la tension de ouf, genre, Gabriel, le tueur, il est là, le flic, il est là avec son flingue dans la brume et tout, en mode, où est le mec, à tout moment, il me tombe dessus et tout, et il y a un plan où on le voit, au fait, Gabriel allongé sur le toit d'une carriole, c'est là qu'on le voit assez bien, pour la première fois, il me semble.
Un peu son visage, oui, enfin, c'est ça. On distingue de mieux en mieux.
Parce que du coup, on le voit immobile, en train d'attendre pour tendre un piège au flic et tension, tu te dis il va se passer un truc, on va enfin, et non, juste au fait Gabriel grimpe au mur et puis il s'en va en se faisant un peu tirer dessus, mais voilà quoi, c'est tout,
rien de bien grave.
Quant à la scène où tu le vois vraiment pour une fois un peu bien, je me suis dit je vais peut-être mettre sur pause pour regarder à quoi il ressemble, puis finalement peut-être
non,
pas
non, on va pas faire ça.
Moi pour le coup cette scène m'a pas déçu, j'étais content en fait qu'il laisse le flic en vie. Ouais. Parce qu'il avait clairement l'opportunité d'éliminer Shaw. Et moi, je me suis dit, ah, ok, cette créature a des cibles et ne ciblera que ses cibles. À ce moment-là du film, je me suis dit ça.
Ah ouais, moi, je m'étais dit à ce moment-là, tiens, mais ils ont envie que le film continue.
Moi aussi. Non, moi, je suis pas déçu parce qu'ils ont pas tué le flic. Je suis juste déçu qu'il y ait tout ce pataquès pour un espèce de prout mouillé à la fin.
Bah, il s'enfuit, quoi.
Ouais, je m'attendais à autre chose, tu vois. Je m'attendais à ce que la scène permette de découvrir un truc sur Gabriel.
Attends,
ou quoi.
Prout mouillé, c'est pour ça qu'on dit un suspect. Oh là là.
Ouais, moi, j'étais quand même un peu déçu qu'il bute pas le flic, mais bon.
Mais attends.
Ah oui, c'est vrai qu'il est mort.
Maddy, elle est où là?
Ça, c'est une très bonne question,
mais non, mais,
là.
Parce que.
Elle est censée être chez elle.
Tout son histoire là, avec la course-poursuite, le flic, machin.
Mais non, mais en fait, elle avait un.
à une vision.
Son espèce de vision cauchemar là où elle, elle avait l'impression qu'elle était dans la pièce avec Shaw, Gabriel et du coup le mec mort dans la baignoire. Mais en fait, elle se rend compte que elle est pas vraiment là, genre parce que elle essaie de parler à Shaw et puis Shaw l'entend pas.
C'est une projection, mais c'est une très bonne question, Laure. C'est une très bonne question pour la suite du film.
Mais tu vois, dans le sixième sens, il voit des gens décédés. Bah lui, c'est le sixième. Elle, c'est le sixième sens prémonitoire. Il voit des gens en train de décéder.
Ouais. Mais il y a des moments où dans le film, vous étiez là en mode, enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai rien compris là.
T'inquiète, bien se passe.
Nous aussi.
Non, non, parce qu'à ce moment-là du film, moi, je me disais juste, bah ok, il y a clairement une grosse connexion entre Gabriel et Madison.
Non.
Voilà. Et du coup, ça se trouve, cette connexion fait que il la force à voir ces trucs-là. Ça a l'air d'être une entité démoniaque, machin ou tout, qui a l'air d'avoir des pouvoirs un peu au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est tout quoi.
Et Gabi, il possède plusieurs gens.
On va pas l'appeler Gabi.
Tout sera
on ne le voit que posséder Madison.
Ouais, d'accord.
Non, pas, on le sait pas encore.
Pas si c'est on va encore.
Mais bien vu, bien vu.
Vu qu'on m'a disputé sur le spoil de tout à l'heure, apparemment, on le sait pas encore.
Non, mais après c'est très intéressant. Encore une fois, parce qu'il y a un mystère par rapport à qui est Gabi, des trucs comme ça. Et j'aime bien. On résume le film. Et pour l'instant, pendant ce temps-là, tu as Laure, un peu comme le spectateur, qui est en mode. Je crois savoir ce qui se passe surtout.
Alors, elle est dans le flou parce qu'on raconte le film, elle ne l'a pas vu. C'est quand même assez turbo-évident que.
C'est turbo-évident que. Et on voilà. En dira
moi, je
dans
pensais
pas
que
longtemps.
C'était très intelligente de pas l'avoir compris, de l'avoir compris avant le truc. Et en fait, je me rends compte que c'est turbo-évident. Et je me dis, en fait, je suis un peu bête parce que je l'ai compris assez tard.
Non, mais après, je sais pas. Hein, c'est...
Même si c'est une théorie que j'avais envisagée, je l'avais pas du tout compris. pour moi, c'était pas évident. C'était juste que je me disais, ça pourrait être un trope.
Après, j'avais pas toutes les clés hein,
mais
à ce moment-là non plus.
On est encore dans le flou, c'est normal qu'on révèle pas le truc parce que ça arrive dans quelques minutes.
Ouais, on en parlera.
Du coup, la bestiole s'enfuit, Gabi, hein, et on passe, nouvelle scène, en journée, il me semble, on passe au lendemain dans la maison avec Maddy qui se fait prescrire une séance d'hypnothérapie par les filles.
Ah, c'est le point hypnose.
C'est le point médium.
C'est le point médium, c'est effectivement. Ça. Du coup, l'idée, c'est qu'en fait, l'hypnose, ça pourrait lui faire cracher des informations sur ce Gabriel qu'elle avait enfoui dans sa mémoire, voilà.
Des souvenirs refoulés.
Effectivement, elle va cracher le morceau, elle va commencer à un peu tout dire sur sa relation avec Gabriel. On apprend du coup qu'il la suit depuis qu'elle est gamine, qu'elle lui pourrit la vie, qu'en gros il fait des conneries apparemment et qu'après c'est elle qui prend pour lui parce que les autres arrivent pas à voir Gabriel, il y a que elle qui arrive à sentir sa présence. Et du coup, elle se retrouve toujours dans des situations où on l'a fait accuser, genre elle a niqué le gâteau. Enfin, Gabriel nique le gâteau, c'est elle qui prend pour Gabriel. Et on la voit même, enfin, il y a même une scène où Gabriel arrive à un peu la faire entrer dans une espèce de crise de somnambulisme.
C'est ça.
Où elle va prendre un couteau, rentrer dans la chambre de ses parents et.
Alors, qu'est-ce qu'elle voit? Parce qu'elle voit pas ça en fait. En gros, ce qu'elle voit, c'est qu'elle va couper une part de gâteau.
C'est vrai, on la voit en train de s'approcher du gâteau, le fameux qui a été un peu abîmé, pour couper une part avec le couteau. Et
le gâteau pour dire bienvenue au bébé, donc
qui
sera Sydney plus tard.
Et là, la vision s'effondre, au fait, et elle tombe, et elle se retrouve face à sa mère adoptive, du coup, elle dans le lit, qui se réveille, du coup, et qui lui dit. Mais qu'est-ce que tu fous ? Et c'est là qu'elle revient à elle et qu'elle fait « Oh mon Dieu, j'ai un couteau dans les mains !»
Et donc là, on comprend que l'ami imaginaire de Maddy est quand même très, très dangereux pour les autres et pour Maddy qui n'arrête pas de la manipuler, quoi.
Et sachant que dans les flashbacks qu'on avait déjà vus, enfin dans les VHS, etc., on comprend que Gabriel a vraiment un problème avec l'arrivée de Sydney, la naissance
vraiment,
de Sydney.
En fait, s'il lui fait prendre le couteau,
c'est vraiment
c'est
pour
parce
tuer
que
le bébé.
Il n'arrête pas de lui chuchoter depuis un moment. Il faut que tu butes le gosse. Il
c'est
faut
ça.
Pas qu'il arrive. Donc voilà, on a un peu toutes ces infos qui apparaissent sur Gabriel qui nous permettent d'en savoir plus. On passe du coup sur une autre scène, on repasse dans la cave, un grenier.
L'espèce de cave du méchant, le repère de méchant.
Voilà, le repère du méchant. Enfin, pour moi, c'est un grenier dans de.
Mmh. Ouais, c'est un grenier.
Enfin, elle est clairement sous un toit, en fait.
Ouais. On va en parler dans quelques secondes.
Oui, voilà. la meuf kidnappée qui est toujours attachée, pieds et poings liés, qui commence à réussir à se défaire. Courageuse hein, quand même, parce que on la voyait une scène avant en train de tenter de bouger un petit peu pendant qu'il y avait le meurtrier Gabriel à côté.
Oh mais là elle est toute seule donc elle
lui lâche le poignard genre qui se plante à 10 cm de sa joue et qui dit même pas en rêve. Mais bon voilà, donc elle arrive un petit peu à défaire ses liens, donc d'abord les mains, faut savoir que vraiment elle est enfin, sur la charpente, donc vraiment penché, la tête...
À 60 degrés, genre.
À 45, mais ouais, ouais, voilà.
Soyons précis.
Ah, attendez, j'ai ramené mon rapporteur.
J'ai un casier.
C'était 42,5.
Ah, j'ai joué à Valheim, les toits 45.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que t'as joué à Valheim il n'y a pas longtemps.
Et donc, reprenne. Elle est penchée.
Donc voilà, en gros, faut s'imaginer qu'elle est un peu comme le Christ sur sa croix, tu vois, et puis qu'elle va se détacher d'abord les mains, donc elle va un peu pencher vers l'avant, et puis elle va finir par se détacher les pieds. Donc elle va un peu s'éclater au sol, elle se relève, et là, elle passe à travers le plancher.
Et pas n'importe quel
plancher. N'importe quel plancher, puisqu'effectivement, elle perfore le plancher et elle tombe à l'étage d'en dessous qui se trouve être la salle dans laquelle ils sont en train de faire l'hypnothérapie.
Et alors là, stop, parce que là, c'est le truc de dingue. Laure, est-ce que tu l'as compris? C'est le moment du plot. Gabi m'a dit...
Bah non, mais si, enfin, je veux dire, il la possède. Mais enfin,
ça, oui ça fait,
Non, mais attends, mais oui, d'accord, il la possède, mais...
Mais non, mais si, je crois. Parce que j'ai vu des images. En fait, il est derrière sa tête, là.
Exactement, voilà. C'est exactement ça. Mais moi, j'ai juste envie de revenir sur cette scène au niveau du découpage.
Non,
c'est n'importe. Bah, parce que c'est là.
Mais non.
Non, c'est pas là.
Bah, si. Bah, mais non.
Moi, à ce moment-là, dans ma tête.
Ah, c'est au moment de la scène d'interrogatoire.
Dans ma tête, à ce moment-là,
ouais.
Elle est schizophrène. Et,
ouais.
Et c'est là le point où j'ai fait. Mais c'est pour ça qu'il y a un remix éclaté des Pixies. C'est un rapport à Fight Club. Et attention, je vais spoiler Fight Club. Fight Club, le mec est schizophrène. Et là,
TDI.
Quoi? Trouble
dissociatif de l'identité.
Ah, pardon, excusez-moi, oui. Le personne a un TDI. Et j'ai fait, ok, en fait, la référence, c'est trop bien joué. Et là, j'ai fait, ok, là-dessus, la réelle est trop bien.
Alors, vous êtes tous en train de parler du plot twist, de l'intrigue, etc.
Moi, et ce moi que je suis supérieure à ça, moi, je vais parler d'autre chose.
Non, absolument, exactement.
Moi,
ce que je ne comprends pas dans cette scène, c'est qu'elle est dans le grenier. Elle passe au travers du plancher du grenier pour atterrir dans le salon du rez-de-chaussée.
Elle s'est fait peut-être les
où
deux
est...
planchers.
Non, mais où est ce grenier?
Alors, déjà, où est le grenier?
Où
mais
est
surtout,
ce grenier?
Où est le premier étage?
Non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est pour ça. Non, mais c'est n'importe quoi au niveau du découpage parce qu'on commence à comprendre.
Par rapport à la structure du bâtiment, je rappelle que quand même, oui, au tout début du film, elle se fait éclater la gueule contre le mur. Mais il y a un énorme cratère dans le mur.
Ah, mais ça, c'est normal, c'est les maisons américaines, c'est du
ouais, mais c'est un mur porteur. J'ai toqué dessus.
C'est le moment, c'est charpente de l'émission.
C'était clairement un mur qui était au bord de la maison, donc ça doit probablement être un mur en dur. Mais clairement, j'ai l'impression que la maison est juste hyper casse-gueule et qu'elle est.
Je crois que c'est un décor de cinéma.
Ouais, c'est surtout un décor de cinéma. Mais moi, j'ai envie de parler en fait du montage de cet extrait. Ça n'a aucun sens. On commence à comprendre, ok, que quand même Gabi et Maddy sont plus ou moins la même personne. En tout cas, il y a un très très fort lien. Et on a un gros cut sur les plans de Seattle en mode on change de scène. Et après, on arrive effectivement sur la nana qui essaie de se libérer. En fait, on n'a pas changé de scène. On est toujours en fait chez Maddy.
Oui.
C'est ça qui est dingue. Et effectivement, le truc s'effondre. Et t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? Le plot est à la fois super intéressant au niveau du twist, mais il est super mal amené.
Bah, moi, je trouve qu'il est bien là-dessus parce qu'il surprend.
Bref, la meuf s'éclafouère au sol devant tout le monde, donc devant l'hypnothérapeute, devant Maddy, devant les flics. Du coup, les flics, ils sont là, ils font « bon, c'est un peu gros, là ».
On va peut-être l'embarquer, maintenant.
Dans le coffre.
Hein. Enfin. Putain, enfin.
Allez dans le panier à salade.
Il faut 1h15 de film pour qu'ils disent « ça peut être pas mal de l'arrêter, quand même, putain !» Pardon.
Du coup, voilà, il la coffre, il l'interroge, du coup, ensuite, au comico, dans la salle sombre, avec la table en métal, le truc vraiment classique des films américains. Donc, il commence un petit peu à la cuisiner, et puis au bout d'un moment, elle commence à devenir un peu chelou. Et là, en fait, c'est Gabriel qui se met à leur reparler en utilisant le téléphone de Shaw, Madison, qui est un peu dans un état un peu catatonique, un peu bizarre. Un peu comme au début, au fait. Hein. Et ouais, non, je sais pas pourquoi, mais Gabriel commence à essayer de dire « Oui, c'est moi, c'est pas elle, vous vous trompez. » Genre, il veut la disculper, c'est un peu étrange. Enfin, moi, à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, je comprenais pas pourquoi il voulait faire ça. C'était un peu bizarre.
Bah, en vrai, s'il la relâche, elle, c'est intéressant pour lui.
Bah oui, Mais ça donne l'impression que depuis le début, il en a un peu rien à foutre. Genre lui, oui. Il se retrouve dans une prison, il casse les barreaux, il s'en fout. Enfin, tu vois, petite mention que après l'appel, elle va un peu parler de Gabriel et expliquer qu'en fait, depuis les débuts, quand elle était gamine, elle l'appelait le diable. Ça fait un peu tan.
C'est vraiment ça. Hein. Ouais. C'est vraiment ça l'idée.
Et du coup, suite à l'interrogatoire, on enchaîne sur la mère de Sydney et Sydney qui sont ensemble et la maman lui remet les papiers d'adoption. Sydney décide du coup de retourner à l'hôpital du début, le très impressionnant hôpital du début qui est au bord d'un lac absolument magnifique, presque poudlardien comme architecture.
Il est tellement cliché, je trouve.
Oui, bah c'est un peu cliché film d'horreur en mode hôpital spooky, etc.
Pas mal de clichés au niveau des décors.
C'est l'hôpital de Phasmophobia pour moi.
Oui, il y a un peu ce côté-là. En plus joli quand même.
Oui.
Est-ce que c'est l'hôpital qui se fout de la charrie ?
Non. Merci.
Hôpital qui est bien évidemment fermé et abandonné depuis des années. Elle pénètre dedans pour trouver les archives concernant sa sœur.
Autre cliché de film d'horreur d'ailleurs, c'est qu'elle voit l'hôpital de loin, il fait plein jour, elle y va, il y a l'air d'avoir une heure de route de bagnole, il fait nuit noire.
Oui, c'est vrai.
J'ai pas fait
gaffe à ça.
Autre point aussi, quand elle se gare, tu sens qu'elle se gare sur un fond vert.
Oui.
Parce qu'au fond, c'est Tamriel.
Ah oui, vraiment.
Oui, elle se gare. En fait, c'est une sorte de bord de falaise. Mais comme ils ont pas dû tourner ça vraiment, parce que c'était trop dangereux de faire ça sur le bord de falaise, ouais. Le fond vert est un peu moche.
Ah vraiment, pour moi, c'est Tamriel.
Après, ça dure une seconde, mais bon. Du coup, elle rentre dans l'hôpital et elle va chercher les archives qui concernent sa sœur, qu'elle va retrouver assez rapidement avec des VHS, qu'elle va embarquer chez sa mère et les regarder avec. Pendant ce temps-là, Madison est enfermée en cellule de garde à vue avec d'autres femmes au look loubard, je fais des guillemets avec les doigts, qui se demandent ce qu'une petite nana blanche de banlieue fait ici.
Comment le policier se dit « Tiens, c'est une personne dangereuse, elle a possiblement fait plusieurs meurtres, on va la mettre dans une cellule commune. »
Surtout qu'il a a priori vu ce qu'elle était capable de faire.
Voilà, donc le policier est complet, ouais, c'est un policier.
Non mais tu sais pas, c'est peut-être comme ça que ça marche la garde à vos US. Hein.
Ouais, enfin non, là quand même une personne dangereuse comme ça.
Bah c'est pour le coup, le coup de la garde à avec toutes les détenues ensemble, c'est pas la première fois que je vois ça dans des films, mais c'est vrai que c'est assez particulier, peut-être qu'on fait ça en France aussi.
Non, c'est des cellules.
Ça dépend, mais
c'est pas des grosses cellules comme ça quoi.
Ouais mais enfin, tu t'es un truc en commun quand genre c'est cellule de dégrisement, quand t'as fait une connerie.
Bienvenue dans 66 enfin... minutes.
Oui,
c'est ça, c'est le déni, c'est vraiment déni. Reportage.
Non, mais je suis d'accord avec toi, en vrai, genre. Mais pour le coup, elle a l'air plus en danger que.
C'est pas 66 minutes, c'est enquête d'action.
pardon.
Parle meilleur, en fait.
Voilà.
Bref, on va partir sur une séquence de montée en tension où on va suivre en parallèle Madison dans la prison de garde à vue et Sydney et sa mère en train de regarder les VHS qui vont révéler toute l'intrigue. Alors, explication du schmilblick et attention, petit trigger warning sur les agressions sexuelles, etc. Maddy a été abandonnée à l'hôpital par sa mère, qui a été violée alors qu'elle était mineure et qui est la fameuse guide touristique qui était enfermée au grenier au début. Celle-ci a accouché de 2 enfants. Oui, j'ai bien dit 2. Émilie, donc Madison, et Gabriel, qui est un être malfaisant et qui susurre à Madison de faire de mauvaises choses et qui la rend physiquement plus forte. Celle-ci dit qu'il est le diable.
C'est le frère de Bart dans les Simpsons ?
C'est le frère de Bart
mais
dans
non,
les Simpsons.
Mais non,
parce qu'ils sont siamois.
Maddy, le frère de Bart.
Greg, en fait, cet épisode-là de Bart Simpson, et c'est toi qui l'auras voulu, c'est une parodie d'un film qui s'appelle Faux-semblant, avec qui ? Jeremy Iron.
Non, encore !
On voit ensuite à quoi ressemble Gabriel à l'époque. Une sorte d'humain siamois déformé dans le dos de Maddy, qui, d'après les médecins, est un tératome, une sorte de super tumeur / jumeau parasite. Pas siamois. Pas vraiment siamois.
Pas vraiment. À demi siamois.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tératome, en fait, c'est une tumeur qui est souvent bénigne et qui peut se développer à l'intérieur d'un corps. On a déjà vu des gens comme ça développer des tératomes où tu avais des boules de cheveux avec des dents
ça.
Qui dépassent,
ouais,
des trucs comme ça.
C'est ça un tératome. C'est
oui,
un,
mais bah, je vais expliquer pour les gens.
Oui, oui. Non, mais je veux dire, dès que tu fais un tératome, il y a des dents dedans. C'est ouais, incroyable.
C'est... Oui, c'est des ça, fois, tu as des oreilles qui poussent.
C'est ça. C'est tumeur. La médecin l'explique brièvement, cheveux, ongles, peau.
C'est un jumeau qui a été absorbé en fait par
C'est ça. Et que du coup, pas si à moi, c'est un jumeau qui a été absorbé. Tout simplement, résumons, ils sont deux dans le même corps. Gabriel étant un parasite qui tue et prend petit à petit le contrôle de Madison en lui faisant voir des hallucinations, les médecins ont décidé de le retirer via chirurgie. Ils ont réussi en partie, mais les cerveaux étant partagés, ils ont tout fourré de ce qui restait de Gabriel dans le crâne de Madison. Celui-ci a disparu petit à petit quand Madison a grandi jusqu'à revenir quand son mari lui a éclaté le crâne au début du film. Voilà.
Derek est un connard. Mais d'ailleurs, dans le côté fourre-tout, c'est littéral. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on avait un générique qui était assez gore avec des scalpels et tout ça. C'est en fait l'opération de Gabriel qui est enlevé de Maddy.
Et du coup, voilà, on a toutes les explications du schmilblick. Gabriel est encore dans son crâne. Et on apprend aussi qu'il fait voir à Madison des hallucinations. Retour à la prison, où Madison se fait prendre à partie par une fan de Johnny Hallyday et une reine du disco qui, de concert, se mettent à la tabasser gratuitement parce qu'elle semble être une victime facile.
Moi, je trouve que la meuf disco, genre au début, elle est en train de la menacer, de danser tous les samedis soirs.
Non, mais j'ai vraiment pas compris. Je me suis dit, ok, le film se passe a priori à notre époque. Pourquoi la redneck, pourquoi pas, tu vois. Là, c'était juste rigolo. Mais celle qui a vraiment le complet disco...
L'afro,
le gros collier, le complet disco, etc. Je me suis dit, waouh, là, c'est... Il se passe à quelle époque? ça fait vraiment presque anachronique, étonnamment.
Oui.
Et ça m'a fait rire.
Par contre, elle est grave stylée.
Très stylée.
Non, mais la tenue est incroyable.
Ah oui, voilà, c'est ça. Compris, par contre, pourquoi elle la tabasse.
C'est gratuit.
Non, mais parce que c'est une victime facile.
Ok, d'accord. Cool.
En gros, il lui demande pourquoi t'es enfermé là. Elle, elle est en mode laissez-moi tranquille. Et ils sont en mode bon, on va te tabasser parce que.
C'est comme ça, t'as jamais
été au collège.
Ah ouais, j'entends.
Cela entraîne, donc le fait de se faire tabasser, entraîne le réveil de Gabriel qui sort, cette fois-ci on le voit à l'écran, littéralement du crâne de Maddy. Donc le crâne se fend et le bout de cerveau avec ce qui reste du visage de Gabriel, donc le petit œil et les petits chicots qu'il a sur le côté, qui sortent du crâne.
C'est la panique dans la cellule.
Les épaules qui commencent à se disloquer pour être manipulées plus aisément par Gabriel, ainsi que les hanches, pour que au niveau des déplacements de jambes, vu qu'il marche en arrière littéralement, ce soit facilité. Évidemment, les autres prisonnières qui sont dans la pièce sont complètement apeurées et choquées de ce qui est en train de se passer devant elles, normal. Et elles commencent à passer un sale quart d'heure, aka elles se font zigouiller violemment, une par une, de manière très graphique. Fatality. Bon, il y a une des prisonnières qui appelle un des gardes à l'aide, mais ils mettent trois plombes à arriver.
Mais je crois qu'il arrive même pas. Hein.
Si.
Il y en a un qui se fait...
Si. Mais là, toute fin.
Alors, petite anecdote. Vu que, a priori, Gabriel est un heel, c'est encore une scène d'un mec qui tabasse plein de nanas. Voilà.
J'en parlerai justement de ce côté-là.
Dans
la partie analyse.
Intéressant.
Ok. Une fois que la plupart des prisonnières ont été zigouillées, un gardien va quand même arriver et essayer d'abattre Gabriel, mais celui-ci se protège avec le corps d'une détenue, arrive à saisir le garde qui, bien évidemment, s'était trop approché de la grille, le tue et récupère les clés pour s'enfuir. Ah non, d'abord, petit détour par la salle d'épreuve pour récupérer ses fringues et son couteau en butant quelques flics au passage. Sydney, quant à elle, appelle Kekoa pour lui révéler tout. Mais celui-ci entend des coups de feu dans le commissariat, il retourne voir ce qu'il se passe à l'intérieur et Sydney, quant à elle, fait demi-tour pour aller à l'hôpital, interroger la fameuse guide qui est hospitalisée parce que c'est la mère biologique de Madison et qu'elle se dit peut-être qu'elle a des infos de qu'est-ce qui se passe.
Exactement. Donc effectivement, Gabriel récupère ses affaires, son fameux poignard, sous les regards apeurés de Winnie, qui est cachée d'ailleurs dans la salle des dossiers. Elle est cachée derrière les cartons. Et ensuite, nous avons Kekoa et son collègue Moss qui constatent les dégâts, qu'il y a effectivement des gardes et des policiers qui sont morts. Nous sommes dans la salle centrale du commissariat avec les ordinateurs, les gens qui sont en train de travailler. Et il y a Gabriel qui arrive pour faire un énorme massacre de flics. C'est le moment climax du film. Scène que moi j'ai trouvé absolument jubilatoire à base de deux têtes coupées, deux gens démembrés, des gens ouverts et trucs comme ça.
Des grosses fractures ouvertes.
Ça envoie du pâté.
Des fusils à pompe deux coups qui en tirent trois.
Voilà, ah mais ça on adore. Alors moi je veux pas dire, mais bon, un mec badass fantastique qui a un manteau noir et qui bute plein de gens, ça me fait penser à plein de films. Mais je pense qu'on y on reviendra plus tard. Donc gore, hémoglobine, menthe coupée. On
bagarre.
Est bien. Bagarre, grosse bagarre.
Très belle bagarre.
Très belle bagarre. Ouais. Nous avons en plus un plan sur une flic qui a l'air importante, parce qu'il y a 2-3 plans sur elle, et en fait, non, elle se fait zigouiller au ralenti. Il y a quand même un moment un peu ralenti à la Matrix. Ensuite, il y a Kekoa et Moss qui arrivent dans la bataille, et l'agent Shaw se rend compte que c'est Madison, mais à l'envers. Donc,
ça veut dire que c'est Nocidam.
Exactement. C'est Nocidam. C'est vraiment comme ça. Donc, il se rend compte que c'est effectivement pas Madison, mais Gabriel, il commence aussi à mettre un peu les pièces du puzzle ensemble. Il y a un passage mis en scène dans la tête de Maddy où on retourne dans la cellule. Mais cette fois-ci, elle est entourée de plein de cadavres de flics. Donc, il y a vraiment une mise en scène assez psychée, assez...
En fait, on comprend qu'on est dans sa tête à ce moment-là.
C'est ça. Mais elle est bien en train de tuer des gens.
Sachant que, petit point sur un truc qu'on n'a pas trop abordé dans les explications, c'est qu'on a dit que Gabriel parlait à travers les radios, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il se manifeste, il y a les lampes qui clignotent, il y a des plombs qui sautent, des choses comme ça, et visiblement, il a une sorte de pouvoir de contrôle de l'électricité, c'est d'ailleurs comme ça qu'il va réussir à naviguer dans le commissariat avec facilité, parce qu'il l'ouvre, en fait, il fait disjoncter les trucs de sécurité des portes.
C'est ça. Nous avons comme premier concurrent contre Gabriel, il y a Kekoa qui essaye d'éliminer donc Gabriel. Il se fait maîtriser par une chaise, donc pour l'instant je note les scores, Kekoa 0, chaise 1. Ensuite nous avons sa collègue qui essaye aussi de le maîtriser, elle se fait ouvrir le bide mais elle survit quand même, elle essaye encore de lui tirer dessus avec un fusil à pompe, ce qui est assez badass. Ensuite les deux... Et donc, Shaw et Moss essayent de s'enfuir par la porte de derrière. Et là, nous avons Gabi qui va très loin, qui rampe un petit peu, qui prend une autre chaise, qui la balance à l'autre bout de la salle et pouf, strike.
Nice shot.
Donc, je compte les scores. Kekoa 0, chaise 2. Wow. Ensuite, Gab monte sur une table avec une musique hyper flippante juste pour montrer que c'est lui le patron. Et il s'en va du commissariat avec un petit plan débulé. Poupidoupidou. Nous avons Winnie, donc celle qui est en crush sur Shaw, qui arrive après le massacre, qui... Petite blague du coup sur la police où elle essaie d'appeler la police sauf que c'est elle la police donc
je trouvais ça très drôle.
Et donc elle appelle évidemment l'ambulance. Yasho qui est en train de se dire mais attends mais il va certainement voir la mère à l'hôpital, il faut que j'y aille. Le mec s'est fait disloquer le bras il y a 30 secondes. Non il y va, il est chaud patate.
Littéralement.
C'est ça, littéralement. Nous avons ensuite une nouvelle scène qui se passe donc à l'hôpital où Sydney est arrivée, elle essaye de voir la mère mais il y a un vieux gardien qui retient l'entrée, mais Gabriel arrive bientôt, nous avons l'électricité effectivement qui s'emballe, et nous avons un meurtre au pacemaker.
C'est mon préféré.
C'est vraiment le vieux qui commence à... On pense qu'il a un arrêt cardiaque, et non, c'est son pacemaker qui éclate et le mec meurt.
C'est mon préféré.
Nous avons Sydney qui essaie de rentrer, mais Gabi est arrivé, donc nous avons... dans la chambre d'hôpital, nous avons la mère qui est dans le coma, nous avons Madison et Gabi, vu que c'est la même personne, et Sydney, grosse confrontation, vengeance, ça y est, Gabi va enfin pouvoir se venger et tuer la sœur qu'il a essayé de tuer depuis plus de 20 ans, globalement.
Bah 30 ans.
Voire 30 ans.
Près de 30 ans.
Près de 30 ans. Nous avons la mère qui se réveille et qui regrette ses décisions, qui aurait dû garder son fils, ces trucs comme ça.
Qui discute en fait, qui parle à Gabriel en disant je suis désolé.
Je regrette tout. Ouais. En parallèle de ça, nous avons Madison qui essaye de prendre le contrôle de Gabriel parce que là, c'est quand même Sydney, sa sœur, qui est en danger. Donc elle essaie de mener à bien le combat. Sauf que Gabriel renverse un lit sur Sydney. Et là, nous avons une révélation de fou malade. C'est que, en fait, Gabriel se nourrissait effectivement des cellules de Maddy. Et elle se nourrissait des fœtus. Du coup, c'est pour ça que Maddy faisait tout le temps des fausses couches. Waouh! on est dans 5 minutes, le film est fini. Hein. C'est genre, on te balance cette révélation, mais ah, de
c'est,
dingue.
C'est qui balance cette révélation, en fait?
Bah, c'est Sydney.
Si, si, qui la balance à Madison.
Oui,
c'est ça. Pour c'est qu'elle ça. Puisse se sortir de là.
Que ça fasse un choc assez gros pour qu'elle ouais. puisse.
Parce que là.
Contrôle.
Sauf que ça ne marche pas puisque Gabi bute la sœur d'une balle dans la tête et tu fais quoi?
Ouais.
Vraiment? Genre, le méchant est en train de gagner?
Fatality.
Puis ensuite, Gabi se retourne vers donc sa mère et l'étouffe. En disant « Oui, tu as fait de moi un monstre !» et tue la mère.
Fatality.
Et donc, le méchant a gagné, sauf que pas du tout. C'était en fait une illusion, à peine une sensation, comme dirait l'autre.
Moi, je dis que la vie est une illusion.
Donc en fait, non, c'était une illusion, car Maddie a pris le contrôle de son esprit, et à nouveau, nous avons une nouvelle fois le décor qui fond, et là, nous sommes dans une espèce de projection mentale où nous avons face à face Gab, et Maddie, et en gros, là, c'est un petit peu qui sait qui va mieux contrôler son corps, et trucs comme ça. Il y a tout un délire sur « Non, tu ne mérites pas ton corps », qui est un discours que je trouve assez intéressant pour en parler après dans le scénar. Et en fait, de manière assez douce, globalement, Maddie arrive à reprendre son esprit, son corps, enferme Gabriel dans une prison mentale. Et en fait, la sœur est bien vivante. Maddie arrive à soulever le lit parce que c'est un lit d'hôpital, c'est très très gros, mais elle dit non, si Gabriel arrive à le porter, je peux le faire aussi. Elle le soulève, elle sauve sa sœur et elle lui explique que peu importe les liens du sang, peu importe, tu es ma sœur et je t'aime. Elles se font un gros câlin avec sous les yeux de la mère de Maddie qui sourit et tout ça. C'est le plan final du film. Alors je précise aussi que Kekoa était arrivé pendant ce temps-là en mode bagarre, il s'est pris une lame dans l'épaule. C'est le dernier plan qu'on a de Kekoa, c'est-à-dire qu'il s'est pris une lame dans l'épaule. Et pourtant, le dernier plan du film, c'est les deux sœurs qui se font un câlin. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas si Kekoa est vivant. On ne va pas voir... Moi, je fantasmais une famille matriarche où il y avait Maddie qui avait deux mamans et une sœur. Non, le film se termine vraiment sur un petit panoramique, sur une ampoule qui grésille où peut-être Gabriel est encore vivant.
Alors, sachant que au moment où elle enferme Gabriel dans la prison mentale, lui il est en mode non mais je m'échapperai,
je reviendrai.
Et elle qui ferme donc cette porte de littéralement cette porte de prison et qui fait oui mais cette fois je serai prête. Et vraiment ça me fait rire.
C'est badass pour rien.
Non mais voilà,
t'as le crâne qui se referme.
Oui, tu as le crâne de
parallèle entre cette porte de prison mentale et le crâne de Madison qui se referme sur le visage de Gabriel. Non,
je reviendrai. Donc en fait, c'était un cartoon depuis le début, tu étais bien dans le déni.
Et alors, moi je l'ai pas, enfin la scène de fin là en mode les deux sœurs qui se font un câlin pendant que la mère les regarde, je l'ai pas du tout vu comme ça. Pour moi, c'était elles font un câlin et puis il y a la mère qui est un peu laissée là, un peu comme une vieille merde sur le côté. Genre c'était trop triste. Je me sentais trop triste pour la mère.
Je déteste ce plan. C'est vraiment un plan de merde pour finir le film.
Oui.
Et c'est la fin de Malignant.
C'était la scène finale de Malignant. C'est le moment où on va débattre entre nous de si on décide de le sauver ou non. Donc on va faire un premier tour de table pour savoir ce qu'on a pensé un petit peu du film. Alors dis-moi Grégoire, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du film? Quel est ton avis?
Alors, donc moi comme je vous disais au début, l'horreur c'est pas du tout mon délire.
Non.
Mais pourtant... non, vraiment pas. Hein. Et pourtant j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Il y avait des idées que je trouvais très bonnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au bout de 20 minutes de film, j'étais en train de dire « Non mais c'est bon, c'est elle, elle est schizophrène. » Et je me suis fait avoir tout le long du film. Et c'est là qu'on voit que, mine de rien, James Wan est un très bon réalisateur. C'est qu'il, pour moi, il a mis des indices là-dessus, très bien calés, et qu'on peut voir que si on veut les voir. Encore une fois, la musique de Pixies, je pense que c'est fait exprès, ou pas, mais moi je l'ai vraiment vu comme ça, j'ai vraiment fait putain c'est bien vu. Il y a des trucs, il y a vraiment des très bonnes idées de réel, mais après dans sa globalité, c'est pas fou quoi, c'est vraiment pas fou.
Galien, est-ce que tu as un petit résumé, ton avis, ton opinion?
Ben, moi j'avais un peu peur du coup, comme je disais au tout début.
C'est un film d'horreur.
C'est un film qui fait peur, et moi j'ai peur des films qui...
Est-ce que tu avais peur d'avoir peur? Parce qu'en vrai, c'est ça aussi le truc, ouais, c'est que quand on regarde un film d'horreur, t'as peur d'avoir peur.
Moi, toutes les scènes où tu sens qu'il va y avoir un screamer et tout, je déteste ça. En fait, j'ai un peu un rapport avec l'horreur, je sais pas si par exemple vous avez vu Nope.
Nope.
Ouais.
Non, je l'ai pas vu.
C'est un film d'horreur que j'adore, sauf pour une seule scène. Et c'est la scène où il est dans la. Dans
potentiellement les... spoiler.
Potentiellement spoiler de Nope, oui.
Vous pouvez avancer.
Non,
de
c'est pas un spoiler, voilà. C'est une toute petite scène. C'est un. Comment ça s'appelle ? Un jumpscare qui est calé comme ça, tu sais pas pourquoi. C'est quand il rentre dans l'écurie et il y a les gosses.
Ah oui, ok. C'est
et
bon.
Et qui lui font une blague.
Ouais, okay.
Non mais quand il a dit que c'était juste un jumpscare comme ça et qu'il a dit c'est cohérent.
Non, c'est vraiment anecdotique dans le scénario.
En fait, c'est,
dans le scénario, c'est vrai que c'est pas...
Ouais,
c'est vraiment anecdotique. C'est littéralement du bait.
Ouais.
C'est pour te faire croire qu'il va y avoir un truc.
Je pense que c'est une ref à Sign de...
M. Night Shyamalan.
Mais voilà. Et pour revenir sur Mike Mignot. Ça, c'est l'horreur que je déteste parmi l'horreur que j'adore en fait. Genre, j'adore comme c'est dans
Nope. T'as pas les jumpscares. Mais il n'y a pas tellement de jumpscares au final dans ce film.
Et bien justement, moi j'avais peur qu'il y en ait. Et au fait, au fur et à mesure que tu vois, je regardais le truc dans mon player en tout petit, parce qu'à chaque fois j'avais peur, je me cachais mes yeux. C'est mes techniques vraiment pour.
Ah, mais j'étais pareil. Hein.
Alors, petite technique pour ceux qui n'aiment pas les films d'horreur mais qui aimeraient quand même en regarder, c'est plus efficace de se boucher les oreilles que de se fermer les yeux. Voilà.
Tout à fait.
Moi j'allais dire ne pas les regarder, ça marche très bien.
Oui, non, mais si t'as envie quand même.
De te mettre un petit peu en danger, non, tu vas changer un petit peu.
Ça parle de plein de choses super, les films d'horreur.
Oui, de fou.
Voilà, et petit à petit, à force de regarder ce film et de voir des scènes un petit peu rigolotes malgré elles, au final, ça cassait vraiment ce côté-là, et puis je commençais à vraiment profiter du truc. Et en vrai, même dès le début, le côté « Oh, t'as été un vilain garçon, Gabriel !» ça désamorce
c'est
quand même
très,
vraiment
très drôle.
Mais ce qui est marrant, c'est que les jumpscares... Alors bon, James Wan, globalement, utilise très très bien les jumpscares dans ses films, mais c'est un peu comme lui qui a popularisé l'ultra surabondance des jumpscares dans les films d'horreur modernes.
Malgré lui.
Malgré lui. Et du coup, c'est rigolo que là, t'es bien aimé, parce que c'est un peu sa faute, hein, pour le coup, partie.
Ouais, parce que pour moi, genre, James Wan, il a plutôt cassé, en fait, ce truc du jumpscare. La scène... Alors, désolé, elle est très très connue, et vous avez forcément vu l'image, mais il y a une scène dans Insidious où il y a une montée en puissance d'un jumpscare et tu t'attends à le voir à un endroit et en fait ça apparaît la scène où t'as le personnage et t'as le type t'as Dark Maul derrière lui. En fait tu t'attends à voir un jumpscare à un endroit et la musique monte et puis après elle
mais c'est sa spécialité sa spécialité c'est les
mais
violonistes fous arrivent pour te faire croire au jumpscare et en fait non. Et puis il le refait d'ailleurs dans Malignant et puis en fait non, la musique s'arrête et puis boum, truc qui fait peur.
Ouais.
Et moi je sais que Insidious, le jumpscare de Dark Maul, du diable là dans le coin supérieur de la pièce.
Ah non, je parle quand il est juste derrière. Mais bon bref.
Ah oui. Non, parce que celui quand il est dans le coin supérieur de la pièce, celui-là m'a terrifié à vie.
Oui, oui.
Mais en fait, quand on a vu des films de James Wan, il y a toujours un jumpscare un peu culte pour chacun. Moi, je sais que le mien c'est le clap de Conjuring. Quand il joue au Colomayard ou à cache-cache, moi c'est l'un de mes jumpscares préférés. Oui, j'ai des kings chelous, ne me jugez pas.
Ah, c'est le gamin qui court dans Insidious, tu sais pas pourquoi il a une tête bizarre et puis il disparaît. Genre,
c'est incroyable.
Mais les gamins qui courent.
Mais oui, j'ai un truc avec les gamins qui courent.
T'avais
oui,
des trucs à dire, Galien ?
Je sais pas si j'avais encore des trucs à dire, mais du coup, voilà, c'est un film que j'ai globalement bien aimé. J'ai passé un bon moment, en fait, ça m'a surpris. Je m'attendais vraiment à en chier pour ce podcast et au final, ça va, c'était sympa.
Alors, vas-y, je bois ton, on t'écoute.
Du coup, moi, j'étais assez curieux de voir où est-ce que ce film a bidé, puisque du coup, alors au début, j'ai eu très très peur. J'avoue que les premières minutes du film, la scène.
Tu as eu peur d'avoir peur.
En fait, la scène d'intro et la scène avec Derek, et là vraiment la scène d'intro dans l'hôpital et tout, je me suis dit, oulalalalalalala, waouh, c'est à chier. Bah vraiment, je trouve que la scène d'intro, elle est nulle, mais vraiment pas terrible. Oh bah non, mon dieu, ouais, voilà. Et puis, oh mon dieu, il y a une créature qui tue des gens, et puis cut, on va dans le futur. J'étais en mode, c'est pas vite. J'aime pas cette construction-là. Puis là, on enchaîne sur Derek, j'aime pas les personnages. Bon, heureusement, il disparaît assez rapidement de l'intrigue. Merci mon Dieu. Mais petit à petit, j'ai deviné assez vite
le plot twist
que c'était Madison. En tout cas, moi dans ma tête c'est ok, c'est Madison qui les tue, il y a un truc qui la possède, voilà. Très tôt j'avais ce truc là en tête, j'avais pas tous les détails et je me suis dit ok, maintenant que j'ai à peu près deviné comment ça va se passer et que j'étais à peu près sûr d'être juste, je me suis dit comment ils construisent ça. Et en vrai j'ai trouvé que le plot, donc tout le schmilblick du jumeau parasite et tout, je l'ai trouvé bien amené, je l'ai trouvé fun et j'ai adoré les interventions de Gabriel, que ce soit pas juste une entité silencieuse comme on peut avoir des fois dans d'autres films de Wan. Quoique souvent ses antagonistes sont assez verbeux, ils parlent assez souvent. Et notamment j'ai adoré les séquences téléphoniques radio et j'en ai parlé en off de ce côté un peu Freddy Krueger, genre il est un peu en franc-parler, tu vois, il est un peu en mode t'es vraiment qu'une sale merde, et j'adore quand les personnages monstrueux ont un franc-parler un peu comme ça, je trouve que ça les démonstruise,
nous dirons ça,
ça les rend moins monstrueux, ça les rend un peu plus ridicules,
mais en même temps ça les rend aussi plus monstrueux parce que ça les humanise. Parce qu'au final, si quelqu'un parle comme ça, ça en devient une personne.
Ouais, mais comme Freddy Krueger, Freddy Krueger et lui restent des monstres. Tu vois, Freddy Krueger, on apprend que c'est. Ouais, pardon. Freddy Krueger, on apprend que c'est un tueur, voilà, qui possède dans les rêves, etc. On apprend son origine, mais ça reste une entité.
Fantastique
comme Gabriel. Alors que si je devais faire un parallèle avec un autre film d'horreur de Wes Craven, de quelqu'un qui appelle au téléphone, il y a Scream, qui est pour moi un des plus grands films d'horreur de l'histoire du cinéma.
Très bonne comédie.
Et au contraire, là, ils humanisent les tueurs de slasher, qui d'habitude sont plus monstrueux, en faisant un mec qui se pète tout le temps la gueule, et là, ça les rend terrifiants. Parce que c'est vraiment des mecs normaux dans Scream.
Moi, ça me fait vraiment rire, ça.
Bah moi ça me fait rire, mais en même temps bah c'est des mecs normaux. Dans Scream il y a vraiment ce côté, non c'est juste des kidams, c'est pas des créatures, c'est pas des gens flippants, etc. Non, c'est juste
un mec qui a mis un masque,
un tueur qui a mis un masque et qui te bute avec son couteau. Mais bizarrement il se déplace très vite, mais bon ça voilà. Regardez Scream.
C'est vrai que ça m'a un peu sorti, le fait que c'est un ninja, qu'il contrôle l'électricité et tout. Je me disais, ouais bah les mecs, en fait je m'attendais à ce que ce soit plus réaliste que ça. Et du
en
coup,
fait,
ça m'a
l'entrée fantastique de ce film, ta sortie du film. T'aurais voulu que ce soit plus scientifique.
Non, pas forcément. Juste qu'en fait, j'étais en mode, j'ai passé trop de temps à me dire, mais pourquoi il contrôle l'électricité ? Du coup, je comprends pas.
Ouais, pareil. Moi, j'étais en train de me dire, limite, j'aurais préféré que plutôt qu'un jumeau maléfique, ça soit vraiment le diable ou qu'il y ait une histoire comme
fantôme,
ça.
Un fantôme, un truc comme ça.
Ouais. Un truc surnaturel.
C'est ça. Mais en fait, je pense que. Excuse-moi, je te laisse la parole juste après, Curtis. Mais en fait, je crois que j'y ai perdu en horreur, en fait d'être terrifié du fait qu'il soit surnaturel. Parce que s'il avait été réel, je pense que je serais sorti du film un peu dérangé en me disant, putain, il y a un monde où c'est pas impossible, tu vois. Et j'aurais été super dérangé le reste de la journée, parce que je l'ai vu le matin, parce que voilà. Et ben en fait là je suis sorti, je fais MDR, c'était marrant, je suis passé à autre chose.
Du coup moi j'avoue j'ai plein de choses à dire sur ce film.
Tu as 30 secondes.
J'ai 30. Waouh. en fait, je comprends la déception du public, des fans d'horreur et des fans de James Wan, parce que ils s'attendaient à voir une sorte de réal à la Insidious, à la Conjuring, où en fait, dans ces films-là, tout est assez subtil, même si c'est visé pour un blockbuster et trucs comme ça, vu que c'est quand même des succès vachement populaires. Malignant n'a aucune subtilité. Mais en fait, il n'a jamais prétendu en avoir. C'est dès le début, en fait, c'est pour ça que le pari du « You've been a bad, bad boy », tu fais « Ok ». Let's go, on y va, on est full des glingos. Et c'est pour ça qu'aussi le plot thriller et trucs comme ça, il est cousu de fil blanc, mais parce qu'en fait le film, c'est un gros ride en fait, c'est j'allais dire un train fantôme, mais si vous voulez vraiment avoir peur, regardez plus Conjuring ou Insidious. Là, c'est un espèce déjà de best-of de plein de genres. C'est pour ça que je suis quand même content que t'aies fait des dénis de plein de genres, parce qu'en fait, il y en a plein. Film d'action, un peu comédie, film d'horreur évidemment, body horror, c'est un gros blobby-boulga analogue horror du coup, et en même temps c'est aussi un énorme best-of de la carrière de James Wan.
Est-ce que j'ai boite un truc?
Ouais, bah justement, en fait les gens ont été déçus, je pense, à partir de la scène d'intro. En fait, je pense que la scène d'intro, que je trouve vraiment pas bien,
parce qu'il a aucune subtilité, le film, c'est ça en fait le problème.
C'est
pour ça aussi que quand ça t'a pas déplu de regarder le film, parce que C'est trop gros.
Et au contraire, donc t'as la scène d'intro qui est très action, en mode oh mon dieu, il y a une créature qui bute des gens et tu vois des gens qui volent, du sang, etc. J'étais en mode ok, c'est un film de James Wan que je suis en train de voir et tout. Mm-hmm. Et par contre, la scène dans le commissariat, qui là où on va dire c'est le climax de violence, d'action, etc., j'étais hell yes, c'est trop.
Ouais, enfin, c'est let's go,
là,
quoi.
Là, par contre, c'était fun à regarder, quoi. Parce que je savais, parce que maintenant, ça y est, j'étais préparé à avoir un truc qui n'est pas Insidious, qui n'est
mais
pas Conjuring, qui est très
subtil,
différent.
Hein. Il a une façon de. Non, mais même dans ses films qu'on considère comme étant subtils, James Wan n'est pas subtil.
Non.
Il fait monter la tension de manière très intelligente. Il a des mouvements de caméra absolument virtuoses, mais il n'a pas de subtilité.
Mais dans Malignant, c'est gras. Je sais pas comment dire ça. C'est que c'est.
Bah, quand tu
c'est
vois...
salade tomate-oignon, quoi.
Oui, non, mais.
Bah non, c'est pas gras, salade tomate-oignon.
Non, mais pardon, un double cheddar ou bacon. Là,
on parle.
Mais pour le coup, il y a vraiment pas. Il n'y a pas de subtilité dans ce qu'il fait. Ces personnages, cette espèce de, dans Insidious, cette espèce de diable rouge, c'est quand même très, enfin c'est très putassier. Enfin,
oui, qui paraît qui t'insulte et qui l'envoie, t'es vraiment qu'une sale merde.
c'est un truc qui est pas du tout subtil. C'est pas une espèce de chose que tu vois pas. C'est palpable en fait. Ces monstres, c'est la sorcière dans les Conjuring. Enfin, tout est hyper en fait on pense qu'il y a une subtilité parce que il joue très bien de la montée et qu'on n'attend pas le jumpscare là où il est, mais oui, je suis d'accord. Malignant, c'est là il dit comme Dead Silence, c'est ouais. Hyper grossier. C'était là dans le truc, t'es dans une forme de vulgarité quand t'apprends le plot twist de fin, parce qu'il aime bien les plot twists au final.
Ouais.
James Wan,
là il est au milieu pour Malignant, mais c'est vrai que le plot sans rien dire dans Dead Silence, c'est quand même très sympa.
Il est au milieu. Ah, ça fait longtemps que je l'ai vu, Dead Silence.
Non, au milieu dans Malignant, mais à la fin dans Dead Silence.
Ah oui, voilà.
Ouais. Deux tiers du film.
Ah bah, dans Malignant, tu t'apprends la. En fait, je sais pas. J'arrive pas
c'est
à savoir.
C'est un peu dilué, mais ouais. Tu commences à comprendre petit à petit.
En fait, je pense que si t'es un habitué des films d'horreur, tu peux le comprendre assez tôt. Si ouais. T'es pas habitué, tu vas le comprendre à la fin. Et c'est pour ça qu'il y a une explication qui ne tombe pas non plus comme un cheveu sur la soupe, parce que je déteste qu'on m'explique quelque chose que je trouvais évident. Mmh. Et là, on m'explique et je suis là, genre, bah c'est bien, ça répond quand même à des petits trucs que j'avais pas forcément compris.
Ouais, d'ailleurs, au niveau du rythme, je trouve le film hyper fluide.
Ouais.
C'est vraiment, tu t'emmerdes pas, ça se pose quand ça doit se poser, ça s'excite quand ça doit s'exciter. Le découpage et tout ça est hyper pro.
Très sauf bien chorégraphié.
L'intro, mais je pense qu'en fait, c'est parce que l'intro est trop gros dès le début. Toi, tu t'attendais encore à du James Wan classique.
Ouais, ouais.
Et en fait, non, dès le début, on est là, genre, non, bagarre, des bras qui pètent, you've been a bad, bad boy. Et t'es là, mais qu'est-ce que je regarde?
Les chaussettes panda.
D'ailleurs, qui ne reviennent pas.
Non, mais c'est très drôle quand même.
Mais voilà.
C'est pour montrer que c'est un enfant, en fait.
Oui, c'est pour montrer que c'est un enfant. Aussi, dans les thèmes, James Wan, il a toujours réussi, depuis à peu près le début de sa carrière, à iconiser ses méchants. Dès que vous voyez un méchant, vous savez que c'est du James Wan. La pupette de Saw, Annabelle, la nonne, il y aurait qui d'autre ? Bah, le diable dans Conjuring. Tout ça, quand même, c'est des créatures qui sont un peu cultes, bon, qui sont pas encore légendaires comme Dracula ou peut-être Freddy Krueger, mais ils sont
un
quand
peu
même...
pour c'est juste que ouais. On n'a pas le recul encore.
Mais on n'a pas encore le recul.
Mais en vrai, la poupée
mais petit
de
à
saut,
petit,
ouais. La poupée de saut, c'est...
La poupée de saut, c'est culte. Oui. C'est culte. Et là, tu sens que dans Malignant, il fait tout pour iconiser le personnage de Gabriel. C'est les cheveux noirs, le manteau en cuir, toute la scène justement de forgeron avec la lame en mode c'est son arme, c'est son truc à lui, tu vois, bébé. Et c'est trop drôle. Et pourtant, il réutilise des vieux tropes de ses autres méchants, parce que un méchant qui utilise des canaux pour transférer des informations ou des messages, bah c'est Jigsaw. Et en fait, il utilise exactement la même chose mais sous une autre forme. Donc en fait, c'est ça qui est assez fou, c'est que le mec fait pas un film de James Wan et pourtant on retrouve du James Wan en creusant.
Il s'autoréférence tout le temps. Le point médium hypnose.
Point médium hypnose et il
la
adore.
Maison.
Et il adore être dans le rétro. L'affiche de Malignant, la pochette, moi, me fait penser énormément à du Suspiria.
Oui, c'est ce que je me disais quand j'ai vu l'affiche du film. Je me suis dit, putain, c'est marrant, on dirait la pochette de Suspiria.
Moi, je m'attendais à un Giallo d'ailleurs. Quelque part, je m'attendais à un espèce de remake de Giallo.
C'est un slasher
italien qui est très iconisé avec de la lumière et d'énormément de mise en scène.
Tous les noms que vous venez de citer à l'instant, ils me disent rien du tout. Mais cette cette affiche. Ouais, genre j'ai l'impression de l'avoir déjà vue.
C'est ça.
Un truc vieux, mais qui date pas de 2021.
Mais
quoi.
Mais c'est ça sa force aussi, c'est que toujours dans son cinéma, en fait, il reprend des vieux trucs. Même la fameuse scène dans les sous-sols où t'as de la brume avec une calèche. Enfin, c'est on dirait les films de Mario Bava des années 80 ou des films d'horreur un peu spooky à la Dracula. Il adore piocher dans le rétro. Et là, au niveau du rétro, je trouve que ce film a un goût de 90s 2000. On dirait vraiment que t'as téléchargé le film sur Emule Island et que t'es en train de le mettre ou alors que t'es en train de regarder Saw, tu le mets dans ton DVD, ça fait comme ça et tu regardes un film des années 90-2000 et t'as plein de références. Déjà t'as Pixies de Where Is My Mind, la ville de Seattle, et je crois que la guide en parle. Seattle, c'est une grosse scène de la scène grunge. Donc Pearl Jam, Nirvana, ça c'est très années 90.
Oui, elle fait ref à Nirvana.
Et les cassettes. Il n'y a pas plus 90s que les cassettes et l'effet VHS.
C'est rare maintenant qu'on voit vraiment des VHS. Et tu voulais parler de la scène finale. Est-ce que tu veux en parler maintenant?
La scène finale. Oui, alors la scène finale, je voulais revenir un petit peu sur l'écriture et qui a écrit. Donc en fait, il y a co-écriture à du coup trois personnes.
Il y avait deux femmes, il me semble.
Exactement. Il y a James Wan, du coup, sa femme qui joue Winnie.
D'accord.
Donc qui a écrit, et celle qui a écrit, je crois, le bouquin ou le premier script qui sera adapté pour faire Manning Hunt. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sans être, je pense, être un étendard du féminisme, c'est quand même très intéressant de voir un casting qui est, je dirais, 80%, 70% féminin. Il n'y a pas beaucoup de mecs dans le casting.
Et c'est tout, quoi.
C'est ça. Et Derek au début, et Gabi. Alors Gabi, c'est vraiment une prothèse. J'ai vu des trucs et tout ça au niveau du making-of. C'est vraiment une prothèse, même dans l'action.
Non, mais c'est un personnage.
Ouais, et c'est un personnage, quoi. Et c'est quand même très intéressant, du coup, de voir une femme qui essaie de se battre pendant tout le film pour récupérer son corps et lui dire, enfin, lui dire, non, ce corps m'appartient. Et ça, j'ai trouvé ça très très cool.
Après, ça, c'est un peu mon avis, mais c'est vrai que c'est assez intéressant au final, que genre le truc de son corps lui appartient, effectivement, par rapport à la maternité, la grossesse, le fait qu'elle ne peut pas avoir, enfin, que ses fœtus se font absorber. Ton corps, est-ce que ton corps t'appartient quand tu as quelqu'un en toi? Enfin, bon, après.
Elle se débarrasse littéralement d'un mâle toxique.
Ouais.
Bah,
oui.
Du coup, c'est un gros pas, enfin, par rapport au début du film, où grâce à Gabrielle, elle se débarrasse d'un mec toxique pour en récupérer un autre,
c'est
en fait.
Mais Derek, et c'est Derek qui lui qui active,
qui déclenche ça. Et qui du coup, bon, ça lui rend, on va d'une certaine manière, ça lui rend service à ce moment-là, mais.
Mais elle en souffre pas mal, et d'autres gens en souffrent en plus. Donc mine de rien, quand tu vois cette espèce de profusion d'hémoglobine et trucs comme ça, il y a quand même quelque chose derrière, tu vois. Il y a pas, alors c'est du grand spectacle. Si vous voulez voir un film d'horreur slash action slash thriller grand spectacle, vous pouvez y aller. Mais honnêtement, pour des gens qui ont bien aimé The Substance, je pense que Malignant, ça serait pas déconnant à remettre un petit peu au devant de la scène.
C'est vrai que The Substance a eu une renommée de fou. Là, trop bien. Ouais. Effectivement. Ouais. Alors vraiment, ouais, trop intéressant ta comparaison. J'aime. Est-ce qu'on fait un petit tour de table pour savoir qui...
Alors, est-ce que toi, tu n'as pas dit ce que tu en avais pensé?
Et Laure non plus.
Et Laure non plus.
Alors, bon, effectivement, j'ai un peu dit pendant qu'on parlait avec Cordes, mais moi, j'avais effectivement un avis très négatif en partant du film, parce que à la base, parce que j'avais entendu beaucoup de personnes qui disaient ouais, mais c'est quoi le plot twist, j'ai rien compris, c'est trop bizarre, on comprend pas, est-ce que c'est un slasher, est-ce que c'est un truc de fantôme et tout, et je me disais bon, si c'est ça doit être mal expliqué, et ça m'a pas donné envie. Et en écoutant donc ce dont je parlais au début, le podcast, je ne sais malheureusement plus quel podcast, mais qui je trouvais super intéressant, je me suis dit ah bah tiens, je donnerais bien une chance. Donc quand Cortés a proposé de voir le film, j'étais très contente de le voir. Moi, dès le début, je me suis dit ok, bon, c'est un peu kitsch, mais let's go. Encore une fois, Dead Silence, c'est aussi un peu kitsch. En vrai, dans Saw, il y a pas mal de plot holes qui sont pas très bien expliqués, donc je me suis dit bon, pourquoi je mets ça de côté, on laisse, on regarde le truc. Et en fait, petit à petit, on se laisse emporter. Et comme j'ai un peu dit, il y a des plans de caméra qui sont incroyables. Au niveau du montage, il y a des idées qui sont super intéressantes. Ouais. On en parlait le moment où on dit que la guide slash maman de Madison est dans un grenier. On a un plan sur la ville, on revient chez Madison, et en fait ça te perd un peu dans l'espace, tu sais pas que cette guide est chez elle, et en fait non, elle, effectivement, c'est le même lieu. De la même manière que Gabriel qui va tuer des gens et Madison sont la même personne. Et que en fait c'est découpé de manière à ce que t'aies pas totalement l'impression que ce soit ça. Oui.
Mais ouais, tout le découpage t'aide à la compréhension du film et
en même temps à mettre un doute de, enfin, genre c'est logique quand tu comprends c'est et en ça. Même temps si tu comprends pas tu peux dire elle a pas des visions. Ou,
Et l'intrigue est pourtant assez enfin une fois que t'as toutes les ficelles l'intrigue est assez simple en final. Ouais. Mais il y a une même en ayant deviné à l'avance. Pareil, j'étais, il m'emmène bien, j'ai envie de voir où ça va, et puis j'étais pas déçu de la manière dont il me montrait, il me présentait les trucs. Et tous les parallèles, de Maddy, Gab, les changements de lieu, et tout a une logique.
Et la seule chose, moi, qui m'a un peu, je pourrais me dire sortir du film, mais comme je travaille dans le domaine de la santé, et voir comment cette personne marchait en arrière et essayer de comprendre dans quel sens elle était à chaque scène d'action, ça m'a un peu, j'étais genre, c'est quoi, c'est son dos,
c'est son genou, c'est dans quel côté que c'est plié. Mais tu vois, ça aussi, je connais pas beaucoup de créatures qui ont un peu ce design-là, c'est assez rafraîchissant.
Il y a juste une scène où ça m'a un peu perturbé, c'est la fameuse scène où il va récupérer son drip dans la salle d'épreuve pour récupérer son manteau et ses gants, où il y a un gros plan sur les mains, en train de s'enfiler les mains, et je me dis, c'est marrant parce que là, j'ai juste l'impression de voir quelqu'un qui met ses gants et pas de quelqu'un qui a les mains un peu à l'envers, un peu chelou.
Ouais, non, mais il y a des plans où c'est pas une personne à l'envers, parce que c'est juste pas possible.
Mais il y a un côté un peu de cheapos des fois qui...
Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a quand même quelques effets spéciaux, Laure en parlait en off, où elle était là en mode, mais putain, il y a des effets spéciaux un petit peu dégueulasses, et je sais pas si pour certains c'est du parti pris ou si vraiment ils avaient pas le temps ou s'ils avaient pas le but, parce que la façon dont bouge ou combat Gabriel, c'est, je pense que c'est soit t'acceptes soit tu rejettes, parce que c'est très bizarre. C'est vraiment, tu sens que c'est du numérique, et je crois que le film s'en fout.
Je suis pas sûr que ce soit du numérique, j'ai l'impression que c'est accéléré.
T'as l'impression que c'est accéléré, enfin il y a un côté off, mais du coup ça marche avec le côté fantastique de la créature.
Il y a certaines scènes où c'est clairement, tu dis au mec, bon, tu fais le geste, puis on le met à l'envers et ça donne, enfin genre quand il court, il court à l'envers, le mec,
ce qui est très rétro, et James Wan il aime le rétro.
Donc c'est
littéralement cool. Comme ça qui fait l'effet de dans The Ring, la petite fille qui sort, Samara,
celle qui
c'est
sort de
Samara, je crois.
Sadako.
Samara, mais... c'est dans quoi alors,
je sais plus,
c'est pas dans The Grudge. Attends, peut-être
c'est celle qui sort de l'écran,
c'est ça.
Ok, d'accord, c'est celle-là, info qui me fait.
Et en fait la façon dont elle marche, en gros, c'est elle marche à l'envers et c'est mis à l'envers, c'est-à-dire elle recule et on le met à l'envers et on a l'impression qu'elle avance, et c'est pour ça que
ça donne un côté très off.
C'est très
chelou, ça.
Et donc Laure, est-ce que tu as un avis sur tout ce qu'on a raconté? Est-ce que tu aurais envie de voir le film?
En fait, j'ai un rapport un peu bizarre aux films d'horreur. Enfin, ça va vachement dépendre de mon état psychologique du moment. Il peut y avoir des trucs qui me triggerent direct, notamment quand il y a du sang et tout ça. Et parfois, des scènes hyper violentes que j'arrive à regarder. Donc, j'arrive pas trop à comprendre comment ça marche dans ma tête.
Ça dépend le mood.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, d'après ce que vous avez dit, je suis assez intriguée. Et je me dis, pourquoi pas.
J'ai toujours la cassette de mon tonton, si tu veux le regarder.
Mais ça, franchement, j'aimerais avoir ce film dans une édition VHS. Ça, c'est un bon goût de vidéoclub.
De fou. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un bon film de vidéoclub. Ah non, mais on va pas finir en disant que c'est un bon film de série B.
C'est un film avec des potes et des
bières. On a pas fini en disant que c'était Pizza Bubière.
Ah, c'est bien de le...
C'est ce que j'étais en train de dire.
En parlant de... Donc, Laure est intéressée pour le voir. Et toi, Grégoire, est-ce que tu le réanimes, ce film? Est-ce que tu le laisses dans sa tombe?
Alors, c'est un peu compliqué parce que j'aime toujours pas l'horreur. Mais pour toutes les recherches qu'il m'a fait faire sur les sous-sols de Seattle, parce que j'ai vraiment adoré ça, ouais, je le sauve.
Et on remercie le grunge.
Yeah.
Et toi, Galien?
Moi, clairement, je vais le sauver parce que... En fait, c'est... Enfin, j'aime pas trop les films d'horreur. Là, ça m'a fait apprécier un film d'horreur. C'est particulier comme film d'horreur quand même. Enfin, c'est un film qui est pas incroyable, mais que sympa. Moi, j'ai passé un bon moment, encore une fois.
Ouais, je suis d'accord.
Donc voilà, je le sauve.
Moi, je le sauve, très clairement. Pour le coup, malgré le début dubitatif de mon visionnage, au final, j'ai passé un excellent moment devant, ne serait-ce que parce que... Il est beau, il est... enfin juste visuellement, les plans de caméra, tu fais c'est joli à voir. Au moins, ça jure pas. Et en plus, l'histoire était rigolote. C'est pas le meilleur James Wan, de très très loin, et par rapport à toute sa filmo, je comprends qu'il est un peu bidé quand même, mais je vais mettre surtout ça sur le dos du contexte de sortie du film de 2021. Moi je le sauve avec grand plaisir.
Cortès.
Un peu pareil, pas le meilleur des James Wan, mais je le sauve à 100% et parce que il est généreux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que le film est. Et d'ailleurs, si vous êtes, encore une fois, fan de la filmo de James Wan, amusez-vous à essayer de trouver tous les clins d'œil par rapport à sa filmographie. Enfin, je veux dire, juste un exemple parmi tant d'autres, mais quand on explique que Gabriel possède Maddy, il dit « Ouais, il t'utilise comme une poupée », mais t'es en mode « C'est bon, il a réussi à placer sa poupée dans son putain de film. Bien joué, James. »
Tape là, give me one.
Est-ce que tu le sauves, toi, Léa, du coup ?
Et donc, moi, carrément, je vais sauver ce film. Je l'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'on attend plus d'un James Wan, que c'était un moment, effectivement, je sais pas quand est-ce qu'il l'a fait, je sais plus si c'est au milieu des Conjuring ou de...
C'est après Conjuring 2.
C'est après Fast and Furious et Aquaman.
Ouais, oui, mais ça, en fait, moi, je suis pas du tout friande de Fast and Furious.
Non, mais le truc, c'est que c'est, du coup, c'est intéressant dans sa filmo,
oui,
parce
non,
que...
Oui, bien sûr, mais je veux dire, quand t'es fan de
Oui, mais après Conjuring 2, ouais, la douche est froide.
Ouais, c'est ça. En fait, t'as un peu ce truc de tu t'attends à quelque chose, et quand, c'est un réalisateur que t'aimes beaucoup, et on te dit, ah, bah, celui-là, il est décevant, en fait, t'as pas envie d'être déçu de ce réalisateur. Bah, non, en fait, il est pas décevant. Effectivement, pas du même acabit que Conjuring. C'est pas la même chose, c'est pas la même, le même plaisir, mais clairement, je le sauve.
Il est différent, mais on l'aime bien quand même.
Il est différent, mais on l'aime bien.
Avant de se quitter, on a deux recommandations à vous faire. Qui c'est qui fait la première recommandation ? Cortès, est-ce que tu veux la faire ?
Ok, donc la première recommandation, c'est un... Eh ben, c'est en quelque sorte un film d'horreur, entre autres. Lui aussi, il est sur divers genres, divers aspects. Il est tout aussi kitschissime. Ça se passe du coup au studio Galande.
C'est quoi le film ?
C'est le Rocky Horror Picture Show.
Wow.
Comédie musicale horreur complètement barré des années 70, qui est parodié tous les vendredis et tous les samedis au studio Galande à Paris. Vous pourrez nous voir et diverses autres personnes dans des costumes chamarrés et brillants
et
en train de et affriolants, n'est-ce pas-t-il, en train de parodier le film et de danser et de chanter mal.
Et oui, parce que nous ne sommes pas que des voix, nous sommes aussi un physique.
Et quelle physique et quelle moustache.
Et quelle moustache.
Et nous avons donc aussi une autre recommandation. J'y vois.
Ah bah moi j'ai un petit film à vous recommander. Je sais plus trop exactement ce que c'est. C'est un buddy movie. De mon souvenir, avec, je crois, Decaune et Garcia qui jouent dedans, mais c'est pas une comédie française, ça se passe en Amérique du Sud, je crois, mais ça parle pas de trafic de drogue.
C'est un peu je crois que ça chante à certains moments.
Je crois que ça chante, je crois qu'il y a un cheval.
C'est Emilia Pérez, en fait.
Je crois qu'il y a un truc avec la forêt amazonienne, mais ça parle pas de déforestation.
Si vous avez compris,
mais moi je crois qu'on en parle dans le prochain épisode justement.
Si vous avez compris de quel film on parle, vous pouvez nous le mettre en commentaire pour le deviner le prochain épisode. Et sur ce, on vous remercie. C'était le podcast Reste une pellicule des Timeslips. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute. On espère que ça vous a plu et on vous souhaite à bientôt.
Des gros bisous. Hein.
Ciao.
Ciao.
'Alors, donc, on a préparé un petit jeu en bonus pour ceux qui auront écouté jusque-là. Le petit jeu, c'est que je vais faire des reviews de films, des reviews une étoile de films qui sont assez connus, des films d'horreur. Voilà, non mais je pense pas que vous pourrez deviner parce que vraiment...
C'est foireux, c'est des résumés foireux.
C'est des résumés assez foireux, mais c'est juste pour dire que malgré le fait que... quand on n'aime pas un film, c'est pas parce qu'on n'aime pas un film que les films sont forcément mauvais.
Ça, c'est vrai.
Alors, premier review. Si c'est avec plaisir que je regarde de nouveau ce vieux film, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, il est devenu obsolète. Quant aux trois suivants, de mon avis, c'était juste une histoire de gagner de l'argent par les producteurs à vers ce titre.
Scream ?
Paranormal Activity ?
Non.
C'est pas Scream non plus, du coup ?
Par les producteurs avec ce titre Smiley pouce en bas. Idem avec d'autres séries. N'oublions pas le mal que cela a fait aux requins. Idem avec la série.
Les dents de la mer,
les dents de la mer.
Oh non, l'or, l'or.
Je l'ai raté, je suis deg.
Oh l'or, pas comme ça.
Alors, pas maintenant, pas après tout ce que tu as
fun
fait.
Fun fact, les dents de la mer, c'est probablement ton film préféré.
Non, c'est pas mon film préféré.
C'est l'un de tes films préférés.
Mais c'est un film que j'adore.
C'est un de mes films préférés et un film parmi tant d'autres de requins que j'affectionne énormément.
Je ne l'ai jamais vu.
Moi non plus.
Vraiment. Vraiment, c'est le matin. Trilogie qu'il faut vraiment.
Alors, c'est considéré comme un film d'horreur, mais t'inquiète.
Non, mais je sais. Je sais qu'il faut. C'est Spielberg, ça va.
Oui.
Alors, deuxième film. Plusieurs personnes ont dit que c'était mauvais, mais n'ont pas expliqué pourquoi. Le film n'était pas très réaliste, ce qui n'est pas ce que recherchent les fans de films d'horreur lorsqu'ils veulent regarder un film d'horreur.
Malignant.
Non. De plus, j'ai lu que la maison dans le film a été construite sur un cimetière dans la vraie vie.
Cimetière?
Mais ils n'ont pas déplacé les corps ni les ont retirés du sol. Ils ont seulement déplacé les pierres tombales. Ce qui ne m'a pas du tout donné envie de regarder ce film, car c'est irrespectueux.
Psychose?
Non.
Littéralement cimetière?
Non.
Insidious?
Non. Je sais plus qui a fait le film.
Misery?
Non.
Alors attends, il y a une baraque qui a été construite sur un cimetière, donc probablement un film de maison hantée, je suppose.
Amityville ?
Amityville,
non,
pas bête.
Poltergeist ?
Le manoir 999 fantômes.
En fait, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que cette review a été écrite par quelqu'un qui a dit « Bah, c'est pas respectueux, donc je ne regarderai pas le film. » Et je lui mets une étoile. Voilà.
Ah oui, d'accord, donc la personne, elle juge sans l'avoir vu.
Oui. C'est des vraies reviews, oui, c'est des reviews que j'ai trouvées sur Allociné.
Ah, j'avais pas compris ça, moi je pensais que vous avez écrit...
Non,
c'est des... Il faut qu'on arrive à deviner le film avec des commentaires foireux même.
Ok, voilà. C'est super drôle en fait. C'était super drôle, mais maintenant, okay, c'est très très marrant.
Bah non, je rigole, c'est bon.
C'est drôle.
Alors, celle-là, c'est introuvable, mais je la trouve absolument géniale, c'est ma préférée. Dinguerie cinématographique. Je conseille ce film pour tous les amateurs de comédie musicale, car l'actrice principale chante très bien l'opéra. Entre parenthèses, PS, l'hygiène des acteurs reste à désirer.
Ah, mais je l'aime.
Phantom of the Paradise.
Non.
Phantom of the Opera.
Non. Mais très bon film à regarder en famille, notamment avec des petits-enfants pour apprendre à utiliser une tronçonneuse. Non, en salle, le film Carpenter. Faites bélec aux gens de la campagne.
La maison des mille morts.
Non.
Ah, mais oui, massacre. C'est putain, t'es pas bête.
Massacre à la tronçonneuse.
Oui, là, on va massacre à la tronçonneuse.
Ok, ouais. Très bien.
Attends, mais comédie musicale.
Comédie musicale.
Mais non, j'ai pas dit que c'était une comédie musicale. Il dit juste que les amateurs de comédie musicale vont aimer.
Mais quel rapport ?
Grégoire.
Parce que ça chante, ouais.
Non.
Est-ce que tu as vu ce film ?
Non, les tronçonneuses chantent. Parce qu'on dit que les scies chantent et que les tronçonneuses. Je pense que c'est ça la blague. Mais bien sûr que je l'ai pas vu.
Non, mais j'ai l'impression qu'à chaque film, à chaque fin de film, on s'arrête, on se demande est-ce que tu as vu ce film ? Non. Ouais. Moi non plus.
Ouais, bah, on est ensemble, les frérots.
C'est ça que la tronçonneuse est un de mes films d'horreur préférés.
C'est un film extraordinaire. Ouais. Autant je suis pas forcément fan de films d'horreur, mais celui-là, il est juste, mais il est beau en fait.
Ah, extraordinairement incroyable. Pas envie de le voir.
Moi, il me fait vibrer.
Non, mais il est vraiment incroyable.
Ouais. Ça fout. Alors,
il nous en reste deux. Sacré coup de vieux pour ce film. La scène. Alors, je vais censurer cette partie-là parce que c'est vraiment au tout début. Sacré coup de vieux pour ce film, la scène de est moins stressante que n'importe quel meurtre de Vendredi 13, chapitre 6, entre parenthèses, ou 7, ou 8, ou 9.
Si c'est irréversible, c'est horrible.
Non. Syndrome du film intouchable pour tous les cinéphiles. Manque de réalisme, manque de suspense, manque de psychologie des
Shining.
Personnages. Non.
Ah, j'ai failli dire ça aussi.
Et puis l'explication à la fin pour les neuneux qui n'auraient pas compris tout, absolument tout
Scream.
Dans ce film. Non. Nous montre que la date de péremption est dépassée, même si c'est bien triste de voir que ça arrive aux œuvres d'art comme aux boîtes de ravioli.
Oh,
quoi ?
Oh, la punch !
Le mec était trop fier.
Alors, ok.
Faut qu'il a drop the mic.
Je vous
la scène de
la douche.
Ah, Psychose ?
Oui.
Ah, d'accord.
Vraiment, il y a quelqu'un qui a dit genre, c'est vieux, j'aime pas.
Oui, j'avoue. Dans oui.
Mais surtout, sa review est très longue, hein. Enfin,
pour un film qu'il a pas vu.
Ouais. Non, c'est vieux, j'aime pas.
Non, mais en plus, c'est évident. Il fait un parallèle avec Vendredi 13, alors que Vendredi 13 est un énorme hommage. Enfin, le premier est un énorme hommage à Psychose. Donc,
ça me tue de rire les gens.
Moi, je remercierais beaucoup Léa d'avoir pris des reviews de Allociné et pas de Sens Critique. Sinon, le petit quiz durerait 2h30.
Non, j'en ai pris des relativement courtes. Et
ouais,
je les
mais
ai
sans
un
Sens
peu
Critique, ça n'existe pas.
Mais Letterboxd, là, on en a eu pour des semaines.
Non, mais Letterboxd, je le fais toujours en trois mots.
Fun fact, Psychose, très connu, je l'ai jamais vu.
Ouais, moi,
ah, c'est incroyable.
Tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu, ouais.
Ah, voilà, la trahison.
Il est trop.
Je suis trahi, ouais. Ça n'a pas duré longtemps.
C'est bon, JB l'a pas vu.
Alors, la dernière, vous êtes obligé.
La scène de la douche, je la connais.
On est obligé de l'avoir, attention.
Vous êtes obligé d'avoir la dernière.
Rapidité.
Moi, je pense que je ne l'ai pas.
Oulala, mais quel ennui ce film. Moi qui pensais voir quelque chose de décalé.
Shining.
Non.
Le Rocky Horror Picture Show.
Non. C'est niais, souvent sans intérêt, et les deux acteurs principaux sont horripilants. Le mec, c'est sa tête et son surjeu d'acteur. Et la fille est insupportable. Non. Et la fille, c'est l'insupportable.
Bonnie and Clyde.
On lui a collé en VF. Non, c'est que des films d'horreur.
C'est que des films d'horreur.
Beetlejuice.
Rien que ça, non. Rien que ça, ça refroidit. De plus, les chansons sont nulles et la soi-disant critique de la société de consommation est d'une platitude.
Ah, la petite boutique des horreurs.
Mais non.
Mais oui, évidemment.
Et je vous la finis quand même pour le kiff. La soi-disant critique de la société de consommation est d'une platitude et d'une facilité sans nom. Deux points positifs quand même. La scène du dentiste avec Bill Murray et Steve Martin, plutôt sympa. Et la qualité des effets sur la pente. Enfin... Et la qualité des effets sur la plante, enfin, pour l'époque, bien entendu. Mais bon, ça ne sauve pas le reste.
Oh, j'ai envie de le buter.
Je vais le fracasser.
C'est le plus bel animatronix de l'histoire du cinéma. Ah, genre,
mais grave.
Incroyable.
C'est pas
avec
un animatronix. Il y a des vrais gens dedans.
Il y a des vrais gens. Une plante.
Il me semble qu'il y a des séquences où c'est des robots. Parce que...
C'est une marionnette.
Ah, c'est tout le temps une marionnette.
Ouais.
Marionnette.
Bah, c'est encore plus. La plus grande version, il y a 14 personnes dedans.
Si tu veux.
Parce qu'il me semble que Oz, il faisait beaucoup de trucs mécaniques.
Non,
aussi.
C'est que de la marionnette.
C'est que de la marionnette et c'est fait par. Alors, c'est pas exactement, mais c'est un mec qui a bossé avec lui. Le gars, j'oublie son nom exactement.
Phil Tippett.
Ouais, mais alors, là, c'est celui qui.
Je sais pas, non, je sais pas.
Qui a fait notamment. Putain, merde. J'ai oublié le nom de ce film, je suis désolé, pas Black Diamond, mais. Putain, le truc avec le truc en deux
fois. Ah, Dark Crystal.
Dark Crystal. Black Diamond, Dark Crystal.
J'y étais
finalement.
Voilà. Comment il s'appelle?
Prochain jeu, tu dis approximativement des noms de films et on essaie.
C'est très drôle.
Clémentine Électrique.
Orange Mécanique.
The Glow.
Ah bah, y a
pour moi, c'est la Jim Sharman Company.
The Glow.
Je l'ai pas. Quoi?
The Shining.
The Shining. Okay. Et donc, en fait, pour finir ce que je racontais,
vas-y.
Les Muppets que font la Jim Sharman Company, c'est toujours des absolus dingueries. Et donc, faut regarder Dark Crystal, sans déconner, juste pour ça.
C'est prévu.
C'est trop, trop bien.
Moi, j'ai des énormes trous dans ma filmographie. Oh, dans la filmographie. C'est des films fantastiques des années 80. Il m'en manque Krull, Dark Crystal et Labyrinthe.
Ah oh, putain, Labyrinthe, faut que je le voie aussi. Mais du coup, dès que vous voyez un film où il y a écrit Jim Sharman, je crois que c'est ça le nom à vérifier.
Jim Sharman, c'est dans le Rocky.
Ouais.
C'est Jim Henson.
Jim Henson. Putain, oui, merci. Jim Henson Company. Bravo. En général, allez-y, ne serait-ce que pour les Muppets, c'est des dingueries à chaque fois.
Ok.
On vous remercie. C'était la vraie fin de Racine Pellicule. On vous fait des bisous.
Des bisous.
À plus.
Ciao.
Ciao.
C'est une fin de tournage. Bravo tout le monde.